18h-20h,
votre grand journal du soir,
Sébastien Krebs.
Bonsoir, bienvenue à vous tous, ravi de vous retrouver ce soir. On est vraiment passé comme on s'y attendait hier à un nouveau stade. Et ce soir, je suis chez moi pour vous présenter ce grand journal jusqu'à 20h grâce au travail de la technique à Europe 1. On s'adapte chaque jour et comme ce matin, comme cet après-midi, bien c'est une émission à distance que nous vous proposons ce soir avec une antenne ouverte. Nous traversons cette crise ensemble, vous nous appelez 3921, vous posez toutes vos questions aussi sur le hashtag Radio Ouverte sur les réseaux sociaux. Le docteur Jimmy Mohamed est avec nous, en tout cas à distance. Pour vous répondre, pour répondre à toutes vos questions. Depuis midi, nos déplacements sont donc limités. Des contrôles policiers en place. À 18h20, je reçois le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, Grégory Joron. Marine Le Pen sera avec nous à 19h10. Elle estime que ces contrôles, que ce dispositif n'est pas assez strict. Ce sera aussi le débat des grandes voix dès 18h30. Et à partir de 19h30, eh bien, l'antenne vous sera ouverte une demi-heure chaque soir avec nos spécialistes de la rédaction à distance, mais pour répondre à toutes vos questions et à toutes vos préoccupations. Anissa est là, elle aussi, chez elle. Isabelle Mille à distance aussi pour
bonsoir,
le journal dans quelques
bonsoir,
secondes.
Sébastien.
Bonsoir à toutes les deux. C'est parti, bienvenue.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Rentrez chez vous ! Rentrez chez vous !
Des rues désertes et des forces de l'ordre qui, on vient de l'entendre, veillent au respect des consignes depuis la mi-journée, donc partout en France. Les sorties non indispensables sont interdites. On verra que les policiers et les gendarmes font pour l'instant de la pédagogie, mais ça ne va pas durer.
Et comme depuis le début de cette crise, on sera à vos côtés, vous qui êtes confinés, vous qui avez choisi de partir peut-être pour vous mettre au vert et vous qui vous inquiétez aussi d'éventuelles pénuries. On va vous répondre.
Avec une information positive, il y en a quand même à Marseille 24 patients traités avec un traitement antipaludéen. L'expérience a bien fonctionné, elle sera généralisée.
Ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une différence très significative entre les gens qui étaient traités et non traités. Ils étaient pratiquement tous curés de la présence du virus au bout de 6 jours.
Alors que le gouvernement a décidé de limiter l'achat de paracétamol, une seule boîte par personne face à la rue et dans les pharmacies.
Et vous le disiez Sébastien, dans ce journal, le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, répondra aux questions que vous lui posez au 3921 ou bien via le hashtag Radio Ouverte.
Le gouvernement déclare la guerre économique au coronavirus. Il débloque plus de 40 milliards d'euros et n'exclut pas de nationaliser certaines grandes entreprises en danger.
Question pratique aussi, dans cette édition, le trafic internet mondial explose. Le réseau va-t-il tenir le choc.
Les regrets d'Agnès Buzyn. On aurait dû tout arrêter, dit-elle. C'était une mascarade. Elle parle des élections municipales. L'ex-ministre de la Santé assure avoir pressenti le drame à venir.
Et puis Roland Garros, reporté à fin septembre. L'Euro de foot, reporté d'un an. Aucun sport, décidément, n'est épargné. Les bourses européennes redressent la tête, revigorées par de nouvelles annonces de la Fed dans le sillage de Wall Street. Paris a terminé en net rebond, plus 2,84% à 3 991 points.
Anissa, c'est à vous pour la tendance météo de demain.
Avec encore une très belle journée demain, une journée printanière. Nous aurons quelques nuages sur le nord et des températures en hausse. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tout ce qui est anodin en temps normal est désormais interdit. La phrase est du ministre de l'Intérieur ce matin.
Et elle illustre parfaitement ce qui nous attend dans les prochains jours et sans doute aussi dans les prochaines semaines. Depuis la mi-journée, donc, tous les déplacements ou presque sont interdits et les forces de l'ordre déployées un peu partout dans le pays pour veiller au respect, bien sûr, de ces consignes. Voilà, le message est clair. Des contrôles, mais pour l'instant, pas de contravention. Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
Alors, ça ne va pas durer, a priori, hein, mais pour l'instant, en tout cas, on en est encore au stade de la prévention.
Oui, parce que ça fait à peine 6 heures que les restrictions sont en place. Donc les policiers et gendarmes patrouillent et contrôlent pour les faire respecter, mais ils ne verbalisent pas directement les contrevenants. Ceci dit, à en croire la fermeté affichée cet après-midi à Paris par le préfet de police, le ton pourrait rapidement devenir plus répressif si les consignes de confinement ne sont pas respectées. Avec à la clé, vous le savez, une amende de 38 euros qui devrait bientôt passer à 135 euros. Alors la mise en œuvre, elle est parfois un peu laborieuse. Ce que vous venez d'entendre juste avant moi, c'est la commissaire du 18e arrondissement de Paris qui tentait vainement avec ses hommes de faire respecter les consignes en tout début d'après-midi dans un secteur très fréquenté du nord de la capitale et autour d'elle des habitants incrédules qui faisaient leurs courses, qui avaient du mal à comprendre et à réagir. Alors, on le répète, la règle c'est de rester chez soi, ne sortir qu'en cas de nécessité absolue et se munir d'une attestation pour justifier son déplacement, à remplir ou à recopier sur papier libre, sous peine de risquer une contravention. Sachez par ailleurs que les commerçants qui ne respectent pas les consignes de fermeture, eux, sont déjà verbalisés.
Merci pour ces précisions, Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. C'est donc un nouveau mode de vie que nous allons devoir mettre en place. Et forcément, autant d'habitude bousculée, c'est perturbant, évidemment. Europe 1 est là pour vous accompagner, comme toujours, reporter, présentateur sur le pont et toute la technique, évidemment, également, les assistants aussi sur le pont, même depuis leur salon. Certains, on l'évoquait dès hier soir, n'ont pas attendu la mise en place de ces nouvelles consignes de confinement pour s'échapper des grandes villes en particulier, des appartements trop petits où la situation peut vite devenir invivable. C'est possible surtout pour ceux qui ont un point de chute à la campagne. Salomé Legrand, vous êtes vous-même parti faire du télétravail en Dordogne et vous n'étiez pas la seule hein, sur la route aujourd'hui dans une ambiance un peu particulière.
Et oui, rien que sur les panneaux, ce n'est plus un trait danger, deux traits sécurité, mais Covid-19 limitait les contacts. Du coup, sur chaque aire d'autoroute, les mines sont un peu piteuses. Tout le monde respecte les distances d'un mètre, notamment dans la file d'attente pour pénétrer dans la station-service. Beaucoup de familles qui vont chercher quelques mètres carrés en plus, comme Aude, avec son époux et leurs trois enfants.
On rejoint notre maison de vacances qui est beaucoup plus espacée. Voilà, on va avoir plus de place pour mieux se confiner. Et on se dit aussi qu'en quittant Paris, et que des hôpitaux parisiens vont être, je pense, surchargés. C'est peut-être aussi l'occasion, si on était malade, d'aller dans d'autres hôpitaux moins surchargés aujourd'hui.
Et tout le monde pique-nique en rang serré autour de sa voiture. Damien tartine le pâté, a même le capot, son ordinateur posé à côté pour envoyer quelques mails de boulot à mi-chemin pour Biarritz.
On a la chance d'avoir un endroit où on a un jardin, on va pouvoir respirer et respecter les règles.
Il est passé midi, est-ce que vous avez le petit sauf-conduit
Ouais, on a notre attestation dans le cartable.
Et elle dit quoi cette attestation
Qu'on a le droit de circuler pour rejoindre notre lieu de confinement.
Alors, je n'ai pas poussé le contrôle hein, pour la simple et bonne raison que je suis moi-même empreinte d'un sentiment de culpabilité, Isabelle. Pour tous ceux que j'ai croisés, c'était bien clair, on se confine à l'arrivée. Je n'ai pas embrassé mes parents, on va mettre ce soir le couvert à bonne distance. Pour autant, rien ne dit que vous n'aurez pas dans quelques jours la chronique d'une famille confinée qui s'engueule.
N'espère pas en tout cas. Merci à vous Salomé Legrand, on vous envoie un peu de zénitude. Et si c'était trop tard pour la région Grand Est? La préfète du Haut-Rhin prévient que les hôpitaux sont saturés. C'est la raison pour laquelle hier Emmanuel Macron a annoncé l'installation d'un hôpital militaire permettant d'accueillir 30 lits de réanimation. L'armée va par ailleurs participer à d'éventuels transferts de malades afin de désengorger les hôpitaux de la région.
Et depuis quelques jours, on assiste dans les magasins à des scènes assez surréalistes, des gens qui ont peur de manquer, qui se ruent au mépris parfois des règles de sécurité et de distanciation entre eux dans les supermarchés, alors que le gouvernement répète que tout le monde aura à manger quoi qu'il arrive.
Hein. Oui, c'est la ruée aussi, vous l'avez constaté sans doute dans les pharmacies, les Français ont peur de manquer de paracétamol. Vous savez que c'est le seul traitement pour l'instant des symptômes du Covid-19, Doliprane et Feralgan. On a vu des personnes en acheter 10 boîtes d'un coup. Comportement qui a conduit le ministre de la Santé à annoncer aujourd'hui un rationnement. Désormais, ce sera une boîte par personne et seulement deux en cas de fièvre ou de douleur. Par ailleurs, le monde entier est bien sûr dans l'attente d'un vaccin. Les chercheurs travaillent activement. Un vaccin, mais aussi un traitement. Des essais cliniques sur la chloroquine, un antipaludique, ont été menés à Marseille pour soigner les malades atteints du Covid-19. On vous en avait d'ailleurs parlé hein, sur Europe 1. Essais qui sont prometteurs et qui seront étendus, a affirmé aujourd'hui la porte-parole du gouvernement. Nathalie Chevance, c'est à l'hôpital de la Timone, chez vous donc, à Marseille, que l'on a commencé à traiter les tout premiers malades.
Oui, ce sont 24 patients qui ont été traités par les équipes de l'IHU à la Timone, des hommes, des femmes de tous âges, volontaires, porteurs du Covid-19. Ils ont pris de l'hydroxychloroquine, un traitement antipaludéen bien connu qui ne coûte pas cher, 600 mg par jour en 3 prises, et pour éviter les complications bactériennes, certains patients ont reçu en plus un antibiotique, l'azithromycine. L'objectif étant d'agir sur la charge virale dans le sang pour voir si le nombre de virus diminue ou pas. Et bien d'après le professeur Raoult, qui a mené cette étude clinique, cela fonctionne.
Ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une différence très significative entre les gens qui étaient traités et non traités, la présence ou pas de virus, et d'autre part, les gens qui avaient pris de l'hydroxychloroquine plus de l'azithromycine avaient une réaction qui était encore plus spectaculaire, puisqu'ils étaient pratiquement tous curés de la présence du virus au bout de 6 jours.
Des résultats donc au bout de 6 jours de traitement seulement, 75% des porteurs ont aujourd'hui une charge virale négative, alors qu'un autre groupe témoin qui lui n'a pas été traité reste aujourd'hui porteur du virus à 90%. Cela veut dire que si le traitement fonctionne, cela permettrait de raccourcir la période de portage, c'est-à-dire que l'on est contagieux moins longtemps, le moyen aussi peut-être de mieux gérer l'épidémie.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille.
Et on en sait plus ce soir sur les raisons scientifiques qui ont fondé les décisions de confinement qui ont été annoncées hier soir. Ève Roger nous rejoindra dans les grandes voies tout à l'heure à partir de 18h30 pour nous raconter. Puis juste avant, je recevrai en tout cas par téléphone le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police pour les remontées du terrain avec donc Grégory Joron, juste après ce journal.
Europe 1 à vos côtés pour vous accompagner bien sûr dans cette crise inédite et pour répondre à vos questions qui sont nombreuses sur ce coronavirus, notamment grâce à vous docteur Jimmy Mohamed, bonsoir.
Bonsoir.
Alors nos auditeurs sont inquiets, évidemment, ils posent beaucoup de questions évidemment qu'ils nous font parvenir sur le hashtag Radio Ouverte sur Twitter ou bien sur le 3921 et notamment celle-ci qui est très intéressante à mon avis. Je suis en confinement avec mon conjoint, si l'un des deux est contaminé, est-ce que l'autre le sera systématiquement ?
Il y a de très fortes chances, il est quasiment impossible de confiner les gens individuellement au sein de la cellule familiale. Néanmoins, deux choses. Un, prudence, si vous avez un conjoint qui est très fragile, là il faut appliquer des mesures vraiment strictes et draconiennes. On dort séparément, on évite tout contact pour éviter que la personne la plus fragile développe la maladie. Et puis, petit conseil qu'on peut vous donner, si vous avez des symptômes très bruyants, vous avez de la fièvre, vous toussez au tout début de la maladie, c'est là où vous excrétez le plus de virus, le plus de particules. Donc c'est le moment de renforcer les gestes barrières. Néanmoins, on sait que vous êtes contagieux durant au moins 14 jours, voire jusqu'à 21 jours, mais la contagion s'estompe petit à petit. Donc on renforce les mesures au moment où vous avez de la fièvre, là où vous êtes probablement le plus contagieux.
Donc si on peut, si on est malade, l'idéal c'est d'avoir une chambre d'amis, de ne pas partager les mêmes repas, un canapé. Exactement. En tout cas, on souhaite bon courage à tous ceux à qui cela pourrait arriver. Merci docteur Jimmy Mohamed, on vous retrouve tous les matins, notamment désormais dans la matinale de Mathieu Béliard, évidemment aux côtés de Mélanie Gomez dans Sans Rendez-vous tous les jours à 15h.
Alors voilà pour le volet santé. D'un point de vue économique maintenant, notre pays, on le sait, va énormément souffrir de cette crise. Bonsoir Carole Ferry.
Bonsoir.
Bruno Le Maire a annoncé aujourd'hui plus de 40 milliards d'euros pour soutenir les entreprises.
Oui, alors ce plan, il prévoit notamment une nouvelle mesure, un fonds de solidarité d'1 milliard d'euros par mois, qui va permettre de verser une aide forfaitaire d'urgence de 1500 euros aux entreprises les plus touchées. Les bars et restaurants qui ont été obligés de fermer, par exemple, mais aussi toutes celles qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Ça concerne toutes les petites entreprises, celles qui ont moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le reste, ce sont des mesures que l'on connaissait, l'activité partielle, 8 milliards d'euros, et puis le report des charges sociales et fiscales. Toutes ces entreprises qui peuvent décaler leurs paiements, ça c'est 32 milliards au total, mais là c'est donc de l'argent qui rentrera juste plus tard que prévu dans les caisses de l'État, même si des exonérations exceptionnelles sont envisagées. Au total, ce plan de soutien va porter le déficit public à 3,9% du PIB.
Carole, le gouvernement envisage même des nationalisations.
Disons qu'il ne l'exclut pas, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin, parce que toutes les mesures qu'on vient d'énumérer, c'est surtout pour éviter la faillite des petites et moyennes entreprises. Mais les grandes entreprises ne sont pas forcément à l'abri quand vous voyez que tous les avions d'Air France sont cloués au sol, par exemple. Donc, le ministre de l'Économie a été très clair, il utilisera tous les moyens possibles, y compris la nationalisation, sachant que Bruxelles s'est engagée à accepter des entorses au règlement sur l'aide d'État aux entreprises.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Et puis il y a une angoisse qui monte en ce moment chez les Français confinés chez eux. Vais-je pouvoir continuer à regarder mes séries sur mon ordinateur ou sur mon smartphone puisque j'ai plus que ça à faire? Le trafic internet mondial explose et on se demande si le réseau va tenir le choc. En tout cas, Clément Le Saffre, les opérateurs téléphoniques sont sur le pont.
Nous ne sommes pas inquiets du tout. C'est le message que nous font passer les opérateurs aujourd'hui. Le réseau 3G, 4G est robuste, conçu pour encaisser des pics de connexion exceptionnels comme c'est le cas depuis ce matin. Cela n'empêche pas, malgré tout, quelques soucis en bout de ligne. Si vous cherchez à joindre quelqu'un, mais que vous tombez sur sa messagerie, c'est normal. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est occupé ou absent. Simplement, le réseau sature. Il suffit de réessayer une ou deux fois pour y arriver. Rien de grave pour l'instant donc, mais les opérateurs vont tout de même devoir s'adapter à cette situation exceptionnelle. Arthur Dreyfus, président de la Fédération française des télécoms.
Nous sommes habitués à absorber des pics de consommation. Ce qui va être nouveau dans cette période, c'est que la hausse de la consommation va être continue sur toute la journée et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines.
Voilà, et à la maison, il y a quelques bonnes pratiques à adopter pour lisser sa consommation, privilégier le Wi-Fi qui peut absorber plus de données que la 3G ou la 4G, limiter le streaming et les jeux vidéo en ligne pendant la journée et repousser au soir les téléchargements de fichiers lourds comme les vidéos.
Des conseils importants de Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Et on en vient à ces déclarations surprenantes à présent, celles d'Agnès Buzyn ce soir dans le journal Le Monde. Bonsoir Adrien Beck. Adrien Beck est avec nous à distance, lui aussi l'ancienne ministre de la Santé qui est arrivée troisième à la course à la mairie de Paris dimanche, affirme qu'elle était parfaitement au courant de l'ampleur que prendrait l'épidémie, c'est ça Adrien ?
Oui, avec cette phrase choc parmi d'autres, hein, quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Agnès Buzyn qui savait et Agnès Buzyn qui assure avoir alerté dès le 30 janvier. Elle dit avoir prévenu Édouard Philippe que les élections municipales ne pourraient pas se tenir. Je veux mettre fin à cette mascarade des élections, ça suffit. Voilà ce qu'a dit la candidate, là c'était dimanche. Des propos graves qui bien sûr interrogent, d'autant plus quand on sait qu'Agnès Buzyn a quitté son poste de ministre de la Santé précisément pour devenir candidate à cette élection. C'est donc la sidération cet après-midi dans les rangs du parti présidentiel où l'on veut attribuer ses propos à la déception après le résultat de dimanche. Une défaite, ça fait mal. Là, c'est un suicide politique, dit un conseiller ministériel. Le problème, c'est qu'elle embarque tout le monde avec elle. Au premier rang, Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, Agnès Buzyn maintient qu'elle a averti le Premier ministre, mais dit regretter d'avoir utilisé le terme « mascarade ». À ce stade, ni l'Élysée ni Matignon n'ont fait de commentaires. Le Premier ministre aura sans doute l'occasion de le faire à la télévision ce soir où il a prévu de s'exprimer.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1 et on en reparlera avec les grandes voix à 18h30. À 19h10, l'invité politique d'Aurélie Herbemont ce soir, Marine Le Pen, elle estime aujourd'hui que les mesures de confinement annoncées par Emmanuel Macron hier soir ne sont pas suffisamment strictes. Elle sera donc l'invité d'Aurélie Herbemont, 19h10.
Et puis Sébastien, le Covid-19 et ses conséquences également sur le sport. Dernière en date, on l'a appris tout à l'heure, le report fin septembre du tournoi de tennis de Roland-Garros, Corinne Boulou.
Oui, il y a 12 jours, un scénario d'annulation ou de report n'était pas d'actualité, mais depuis, tout s'est accéléré. Cet après-midi, l'annonce du report de Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre a été officialisée. La crise sanitaire rendait impossible son organisation dans de bonnes conditions. Le chantier de rénovation du stade est à l'arrêt. Les tests de fonctionnement du nouveau toit sur pause. Les ouvriers ont quitté l'enceinte pour cause de confinement. Les circuits ATP des hommes et WTA des femmes ont été mis en sommeil jusque début mai. Cela n'avait plus de sens non plus d'ouvrir la billetterie au grand public comme initialement prévu le 23 mars. Du coup, les billets déjà réservés pourront être soit remboursés, soit échangés compte tenu des nouvelles dates inédites de l'édition 2020 du tournoi parisien. Isabelle et Sébastien.
Effectivement, tout ça est très inédit. Merci Corinne Boulou. La course cycliste Paris-Roubaix est elle aussi reportée à une date ultérieure et puis s'est confirmé l'Euro de foot initialement prévu en juin-juillet dans 12 pays a été repoussé à l'été d'après, l'été 2021. C'est un report inédit lui aussi qui doit permettre théoriquement d'achever les compétitions de clubs actuellement interrompues par la pandémie.
Voilà pour le journal complet signé Isabelle Millet. Vous revenez bien sûr à 18h30 pour nous rappeler les grands titres de l'actualité de cette soirée. Anissa, le temps pour demain, nuageux en tout cas sur la moitié nord.
Oui, juste sur le nord, effectivement, Sébastien, avec dès le début de la journée, de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, des brumes et des brouillards. Attention, hein, ils pourraient s'étendre, ces brouillards, jusque sur l'Est et la Lorraine. Dans l'après-midi, le ciel va se dégager avec des pays de la Loire aux Ardennes, une alternance entre nuages et éclaircies. Partout ailleurs, c'est une vraie grande belle journée printanière demain avec du soleil pour toute la France. Sur les côtes bretonnes et le littoral de la Manche, le ciel est un petit peu plus sombre mais rien de très inquiétant. Nous aurons toujours un petit peu ce vent d'ouest qui continue de souffler sur les côtes du nord-ouest. Il souffle à 40 km/h donc c'est anecdotique. Et vraiment partout ailleurs, c'est du soleil pour tout le monde, un soleil qui va briller généreusement. Les températures, nous aurons 2 à 5 degrés demain matin sur la Bretagne, 3 à 8 sur l'ensemble de la France et jusqu'à 11 degrés dans le sud-est. Nous aurons 9 degrés demain matin à Paris. Hein, donc vraiment, ça grimpe. Et dans l'après-midi, 12 à Cherbourg, 13 à Brest, 14 à Dunkerque, 16 pour La Rochelle et Lille, 18 à Ajaccio et Strasbourg. On a la même température à Ajaccio et Strasbourg demain après-midi, 19 à Paris et jusqu'à 23 degrés à Cahors.
Europe 1.
Dans un instant, dans votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Et quel bilan pour cette première journée de confinement accru avec des contrôles dans les rues, des contrôles de police. Il faut désormais signer une attestation pour sortir de chez soi et uniquement pour des motifs essentiels. Est-ce respecté ? À quand une verbalisation et des sanctions ? Je reçois dans quelques secondes le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, Grégory Joron.
Ça fait 6 heures maintenant que la France est confinée. Vous écoutez votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs. Les sorties ne sont possibles qu'avec une attestation dérogatoire de déplacement. Ce sont 100 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés pour faire respecter ce confinement. Sébastien, en ligne avec vous ce soir, le secrétaire national CRS Unité SGP, Grégory Joron.
Bonsoir Grégory Joron, pardon.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous ce soir. Donc ces mesures qui s'appliquent depuis midi précisément, quel premier bilan vous pouvez tirer ce soir de ce premier après-midi? Quelles sont les remontées que vous avez du terrain?
Bon, globalement, ça semble s'être bien passé. On a, semble-t-il, peu de verbalisation, des gens qui comprennent, même si à certains endroits, évidemment, le message a encore du mal à passer. On le voit dans certains quartiers parisiens, par exemple. On sait qu'il y a une verbalisation dans le 18e arrondissement et quelques difficultés, encore une fois, de prise en compte collective des préconisations et des instructions du gouvernement, quoi.
On a pourtant entendu aujourd'hui des officiels dire qu'il n'y aurait pas de verbalisation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement cette verbalisation soit déclenchée dès aujourd'hui?
Ben vous savez, malheureusement, je pense qu'on a des gens qui ont du mal à comprendre, et quand on leur explique les choses, la pédagogie suffit pas toujours. Donc je fais confiance à mon collègue qui a dû sûrement établir cette procédure et à son libre arbitre et à son professionnalisme. Il a pas dû, à mon sens, avoir d'autre choix que de verbaliser la personne qui ne voulait pas écouter, ou alors qui avait pas d'attestation et qui sciemment sûrement ne voulait pas se prêter encore une fois à ces consignes là, quoi.
On entendait dans le journal de 18h d'Isabelle Millet tout à l'heure la commissaire du 18e arrondissement de Paris crier dans la rue « rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Ça veut dire que c'est encore un peu compliqué à faire appliquer dans certains quartiers, vous diriez ?
Oui, c'est un peu compliqué à faire appliquer dans certains quartiers, sûrement dans d'autres villes de province aussi, où finalement les gens sont un peu concernés, parce que encore une fois, tant qu'on n'est pas totalement face à la difficulté, on se rend pas compte que c'est quelque chose, c'est un virus particulier qui on peut être porteur sain, contaminer tous les autres sans être jamais malade, et cette prise de conscience là, elle est longue à venir. Au-delà de ça, nous les policiers, on a aussi des difficultés en termes de matériel, puisqu'aujourd'hui on demande à cette première ligne sur le terrain et ces 100 000 policiers et gendarmes d'aller contrôler les gens sans qu'ils soient équipés de masques et de gants non plus. Donc c'est là qu'il y a une incohérence pour nous, qu'on dénonce depuis 3 jours en haut lieu, puisque ça pose quand même aussi des difficultés dans nos rangs et des questionnements qui sont tout à fait légitimes.
Oui, vous parlez des masques. La consigne a été donnée pour que les policiers ne portent pas de masques là-dessus.
Alors à certains endroits, heureusement ils en ont. À d'autres endroits, la consigne a été donnée en effet de ne pas porter les masques.
Donc c'est comment vous comprenez ça?
Non, pas du tout. C'est incohérent avec les annonces du président et même du ministre. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut une distanciation sociale, qu'il faut éviter les contacts autant que faire se peut et les réduire à la stricte nécessité. Et on demande à mes collègues d'aller sur le terrain, mettre en place ces mesures sans être protégés. Donc évidemment que ça nous pose problème. On demande la dotation individuelle de masques et de l'essentiel, hein, de masques et de gants et de gel hydroalcoolique. Ça tarde à venir. Et évidemment que ça inquiète mes collègues qui en sont démunis, comme par exemple dans les PAF à Orly, dans les polices aux frontières, dans les aéroports et ailleurs.
Et on comprend que ça peut être compliqué de contrôler l'attestation d'un passant en restant à 1 mètre de lui, évidemment.
Oui,
plus d'un mètre, comme la consigne devrait s'appliquer.
Exactement, à plus d'un mètre. Alors on nous dit qu'il faut tendre le bras, il faut faire poser l'attestation par terre, mais ça c'est comme tout. C'est dans les jolis livres de formation et malheureusement la réalité de terrain est souvent tout autre. Et donc nos collègues demandent et on s'en fait évidemment le relais à être équipés, encore une fois, des moyens essentiels qu'aujourd'hui sont soit quasiment épuisés, soit inexistants.
Alors, donnez-nous quelques conseils très pratiques, parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent se posent des questions. Est-ce que je peux faire cette attestation à la main? Est-ce que je dois la refaire chaque jour, à chaque fois que je sors de chez moi? Quelle va être la marge de tolérance des policiers? Il faut vraiment avoir son attestation nouvelle chaque jour?
De toute façon, je pense que globalement, on peut rayer la date si on n'a pas été contrôlé, puisque de toute façon, logiquement, on devrait y mettre un marquage ou un tampon, mais ce qui est pas le cas, puisque les collègues n'en sont pas équipés non plus toujours. Je pense que voilà, légitimement, on peut mettre un coup de crayon et barrer la date et s'en servir tous les jours pour éviter aussi de devoir la réimprimer. Mais il y a aussi des applications, je crois, sur téléphone qui font que vous pouvez aussi la montrer aux policiers. Enfin voilà. Après, encore une fois, il faut faire confiance aux professionnels.
Ça peut être compliqué de la signer sur son téléphone, c'est la question aussi qu'on
peut se poser. Ça peut être compliqué de la signer, mais voilà, il faut faire confiance au professionnalisme et au discernement des policiers qui ont quand même l'habitude des contrôles, quels qu'ils soient, voilà, pour encore une fois faire preuve de discernement et savoir à peu près à qui ils ont affaire et là-dessus j'ai aucun doute non plus. Après, il faut qu'on appelle aussi tous au sens civique, évidemment que on peut globalement contourner le système en faisant des fausses déclarations sur l'attestation, auquel cas ça
on peut toujours trouver une excuse, c'est purement déclaratif.
Voilà. Exactement. Donc après, le but du jeu, je pense, la porte ouverte, c'est l'appel à la citoyenneté et à la prise de conscience collective. Là aujourd'hui, c'est de la pédagogie, c'est de l'explication. Je pense que les jours à venir, c'est malheureusement, il y a encore les mêmes scènes dans certains quartiers. Eh ben, il faudra forcément de la fermeté, puisqu'aujourd'hui, potentiellement, c'est simplement des vies qu'on doit sauver en essayant de rester chez soi et de se confiner au maximum.
Certains se posent la question. Je peux faire de l'exercice. Christophe Castaner dit à proximité immédiate du domicile. On imagine quelqu'un qui va courir peut s'éloigner un peu de son domicile. Là aussi, il y aura une marge de tolérance.
Oui, évidemment, mais ça, c'est encore une fois, c'est du bon sens. Et si la personne est seule, qui c'est pas la cohue et qu'on court pas en groupe un semi-marathon, évidemment, on peut faire un footing de 5 km autour de chez soi. Si c'est toléré et préconisé dans l'arrêté qui a été sorti, dont acte, les policiers appliqueront.
Le critère, c'est d'être seul. Ça restera le critère principal pour les policiers. C'est les attroupements que vous allez rechercher.
Bien sûr, oui, évidemment, oui. C'est les attroupements. C'est vous l'avez vu hein, sur justement l'image de vous, enfin que vous parliez tout à l'heure, dont vous parliez tout à l'heure sur le 18e. C'est des gens qui sont dans la rue et qui respectent pas les 1 mètre de distance, qui se promènent sans attestation, encore une fois, ça va mettre sûrement quelques jours encore une fois pour que cette prise de conscience collective qui est longue à venir et qui demandera à certains moments de toute façon une fermeté de la part des policiers mais qui sont prêts à l'appliquer à partir du moment encore une fois on leur donne les moyens de faire leur mission correctement.
100 000 policiers et gendarmes mobilisés à partir d'aujourd'hui sur ce dispositif. Dans quel état, j'ai envie de vous demander, sont les moyens humains de la police aujourd'hui? On sait qu'ils ont été extrêmement sollicités ces derniers mois. Comment vous vous organisez aujourd'hui pour à nouveau être mobilisé pendant probablement plusieurs semaines?
Eh ben, on demande simplement aussi du bon sens. Hein. On l'a réclamé auprès du directeur général de la police nationale ainsi que du ministre de l'Intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut enlever le décor, il faut aller à l'essentiel et maintenir une capacité opérationnelle justement pour l'essentiel. Donc je vous cache pas que première journée post-annonce gouvernementale, c'est toujours un peu compliqué puisqu'on a des chefs de service qui inconscience, inconsistance, bêtise, je sais pas, les trois à la fois, ne prennent pas en compte certaines mesures, font fonctionner les services comme s'il ne se passait rien, alors que le but du jeu, c'est justement d'avoir une capacité dans la durée sur ces missions essentielles de contrôle de police-secours, parce qu'il est hors de question aussi d'abandonner le terrain et de faire croire que à la petite et moyenne délinquance qui pourrait faire n'importe quoi. Donc tout cet équilibre-là, pour aller le chercher, il faut recentrer les missions. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à certains endroits, c'est pas pris en compte. Et les chefs de service font fonctionner leur service normalement. Malheureusement, le président de la République l'a déclaré 6 fois, je pense, hier, dans son allocution. Nous sommes en guerre. J'ai envie de lui dire, il y a des cadres de la police qui font la guerre en costume cravate et qui se rendent pas compte aujourd'hui des mesures qu'ils doivent prendre et qui veulent de toute façon pas les appliquer d'après ce qu'on sait. Donc nous, ça nous pose aussi souci.
Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été en ligne ce soir avec nous, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. Et on va continuer d'en débattre dans un instant avec les grandes voix. À tout de suite.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h avec les grandes voix, Sébastien Krebs.
Oui, on va reparler de ce nouveau dispositif de confinement, ces premières heures. Ce dispositif est-il suffisant? Il y a déjà polémique politique, vous allez voir, à tout de suite.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec vous Sébastien Krebs.
Voilà, on est à distance, on se marche un peu dessus, mais c'est pas grave, Isabelle Millet est là pour le rappel des titres.
Je suis là, la France à l'arrêt depuis la mi-journée. Pour chaque sortie désormais, il vous faut présenter une attestation sur l'honneur indiquant les raisons de votre déplacement. Tous les regroupements sont prohibés. 100 000 policiers et gendarmes déployés dans tout le pays pour faire respecter ces interdictions de sortie. 38 euros d'amende dans un premier temps, ensuite ça passera à 135 euros. La France a mis en place les mesures de confinement les plus strictes d'Europe, ce sont les mots de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Pour soutenir les entreprises impactées, le gouvernement débloque 45 milliards d'euros. Le ministre de l'Économie table sur moins 1% de croissance cette année. Par ailleurs, pour éviter les achats inconsidérés dans les pharmacies constatés ces derniers jours, la vente de paracétamol est désormais limitée à une boîte par personne et deux boîtes en cas de fièvre ou de douleur. La fréquence des trains en France va encore être réduite pour limiter toujours la propagation du virus. Et puis le tournoi de tennis de Roland-Garros est reporté fin septembre. Le Paris-Roubaix est repoussé et l'Euro de foot 2020 se jouera en 2021.
Merci Isabelle, on vous retrouve évidemment à 19h pour un journal complet. Anissa, la tendance météo pour demain.
Oh bah c'est une tendance très positive, hein. Ce sont des bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer puisqu'effectivement le printemps a l'air d'être là bien avant la date. Nous aurons demain, à part quelques petits nuages sur le nord de la Normandie aux Hauts-de-France, des petits brouillards matinaux, à part cela une journée très ensoleillée sur l'ensemble du pays et des températures qui grimpent 2 à 11 degrés du nord au sud demain matin et dans l'après-midi 12 pour Cherbourg, 19 à Paris et jusqu'à 21 degrés à Nîmes.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Sébastien Krebs, et c'est l'heure du débat des grandes voix jusqu'à 19h. Un débat ce soir à distance depuis chez eux avec Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Sébastien.
Bonsoir. On est tous en ligne et on va faire vivre ce débat jusqu'à 19h avec vous tous au 39-21. Vous réagissez, vous échangez avec nous aussi sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 ou hashtag radio ouverte. On va revenir bien sûr sur ces mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron et qui sont entrées en vigueur à midi. Intervention télévisée qui a été suivie par plus de 35 millions de Français, hein, à la télévision hier soir à 20h. C'est un record absolu d'audience à la télévision française et ça ne comprend pas tous les auditeurs qui l'ont écouté à la radio ici même par exemple. Mesure de confinement qui s'applique, on l'a compris, plutôt facilement dans certains lieux, plus difficilement dans d'autres, et déjà des critiques. Est-ce que c'est suffisamment strict? On a entendu déjà quelques critiques ces dernières heures qui commencent. Mickaël Darmon, peut-être c'est Marine Le Pen qui finalement dit que ce n'est pas suffisamment strict.
Oui, parce que Marine Le Pen a été la première à dire depuis le début qu'il fallait être dans des logiques de confinement très sévères. Donc elle poursuit donc son discours et son propos, et surtout parce qu'elle sent qu'il y a une brèche, parce qu'elle sent maintenant qu'effectivement il y a eu des moments d'hésitation, de tergiversation sur de propos incohérents parfois, en tout cas contradictoires, notamment autour de l'affaire du report des élections municipales. Et je dirais enfin elle se dit il y a une brèche dans laquelle s'engouffrer pour retrouver la capacité à s'opposer et à pouvoir critiquer le gouvernement, parce que il faut aussi qu'elle fasse un peu l'équilibre. Hier elle a quand même sans embâge, après la déclaration du président de la République, elle a tout de suite reconnu qu'elle se rangeait qu'elle rejoignait cette union nationale qu'appelait le président de la République de ses voeux, et peut-être aussi veut-elle envoyer un contre-message aussi à ses électeurs.
Bon, alors elle fait de la politique, Marine Le Pen, est-ce que ça la grandit vraiment? Je ne sais pas. Laetitia Krupa, est-ce que vous avez trouvé suffisamment de fermeté dans le discours d'Emmanuel Macron hier soir?
Bah écoutez, c'est comme ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'encore une fois, cette communication politique est séquencée, elle se divise. Elle se divise parce que le président prend la parole une première fois. La semaine dernière, c'est Édouard Philippe, ensuite, qui dans la foulée a annoncé les mesures sévères, et finalement celles qu'on a retenues. Pourquoi? Parce qu'elles sont concrètes. Et là, encore une fois, hier soir, le président, bien sûr, est solennel, il utilise ce mot « guerre » qui est repris aujourd'hui dans tous les médias, dans toute la presse. Donc, effectivement, ça a imprimé, bien sûr, on on est en guerre sanitaire, le message est passé, mais il refuse d'utiliser le mot confinement. Alors on l'apprend grâce à nos confrères du Parisien notamment, ça a été fait à dessein, c'est-à-dire que son entourage et lui-même ont trouvé que ce mot était trop imprécis, trop anxiogène, et qu'il signifiait surtout l'arrêt de l'économie. Et donc, qui utilise ce mot, c'est Christophe Castaner dans la foulée du chef de l'État hier soir, puis ce matin. Donc on surdivise cette communication et ce soir, pour couronner le tout, on a le Premier ministre en duplex à 20h dans le journal télévisé. Donc vous voyez que cette communication à trop vouloir la séquencer, alors est-ce que c'est pour comme avoir un objectif de marteler le message pour qu'il passe, mais en changeant les incarnations, finalement on dilue le message. Or, en crise sanitaire, il faudra le répéter, je pense maintenant plusieurs fois, c'est le chef de l'État, c'est lui le seul à incarner la communication politique au plus haut degré.
C'est vrai qu'il n'est pas rentré dans les détails et dans les modalités pratiques. Et hier soir, ici même en direct après son intervention, on se posait encore beaucoup de questions sur qui aurait le droit de circuler et comment, et est-ce qu'il faudrait un laisser-passer, etc. On n'avait pas tous ces éléments-là. Et Roger, vous avez des informations justement sur la façon dont la décision a été prise, puisque c'est le ministre de la Santé qui a donné des précisions aujourd'hui.
Alors, le ministre de la Santé était effectivement avec les membres du conseil scientifique. Vous savez qu'il a mis en place la semaine dernière, où il y a des épidémiologistes, des anthropologues, etc., qui ont justifié les choix des décisions politiques. Et la première chose qu'on peut entendre, c'est effectivement le discours est séquencé, mais c'est aussi parce que l'acceptation de telles mesures est difficile. Ils disent que l'acceptation est presque plus difficile que la décision elle-même. Donc, en fait, c'est peut-être pour habituer les Français, leur esprit, à se dire que petit à petit, on allait vers le confinement. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles la communication était faite de façon séquencée, parce que si la population n'accepte pas, les effets escomptés ne viendront pas. Donc c'est une partie de l'explication. Et puis la deuxième, le conseil scientifique, les scientifiques sont bien droits dans leurs bottes, c'est-à-dire qu'ils justifient chacune des décisions en fonction des études, des modèles, des algorithmes qui tournent comme ça dans le monde entier depuis le début de l'épidémie. Et ils nous ont dit cet après-midi que si ces mesures étaient respectées, eh bien on verrait une baisse de 50% des effets de l'épidémie à terme. Donc c'est quand même un objectif qui est à la fois important et capital pour la suite des événements.
Et le gouvernement systématiquement réfugie entre guillemets, mais en tout cas s'appuie sur les décisions de ce conseil scientifique pour justifier toutes ces décisions, et notamment celle d'avoir maintenu les élections municipales. C'était ce même conseil scientifique qui avait conclu.
La question leur a été posée plusieurs fois. Alors Olivier Véran a dit cet après-midi, le ministre de la Santé, il leur a dit, je leur ai bien posé la question en sortant toute de leur tête tout l'impact politique que ça pourrait avoir. Donc les scientifiques ont dit, si on peut aller faire ces courses, vous savez, ils disent ça, si on autorise les personnes âgées en particulier et tout le monde à sortir pour aller faire leurs courses, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller voter pendant 15 minutes à peine dans un bureau de vote. Mais ce qui est très intéressant à entendre, c'est ces scientifiques, ils sont très 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 loin de la polémique, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très modestes aussi. C'est-à-dire qu'ils disent il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait toujours pas, c'est très important, et il y a plein de choses qu'on a appris au fur et à mesure des événements. Et ils nous ont raconté que vraiment jusqu'au 28 février, ils avaient le sentiment de maîtriser, mais enfin de comprendre un peu ce qui se passait. Le 28 février, avec la mort de cet enseignant de l'Oise à la Pitié-Salpêtrière, tout d'un coup, ils se sont dit, il n'y a pas forcément besoin qu'on vienne de Chine et qu'on ait des contacts avec les Chinois. Et puis, ils disent, la semaine de la bascule, ça a été vraiment la première semaine du mois de mars, où tout d'un coup, on a vu à la fois le cas à Mulhouse, vous savez, ce rassemblement, tout d'un coup il y a eu 81 cas, et là tout d'un coup l'arrivée dans les services de réanimation d'un nombre de patients avec des formes graves. Et puis surtout, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé aussi que les patients jeunes pouvaient être atteints, et jeunes, c'est-à-dire 40, 50, 60 ans, pas forcément avec d'autres maladies. Et donc ça, ce constat sur le terrain, plus les modèles, plus le modèle italien, ben, tout d'un coup ils disent tous, c'est à ce moment-là que tout a changé. Donc il y a quelque chose ils avancent en même temps que l'épidémie. Ils disent, le virus est pour l'instant, il est devant nous, et maintenant il faut qu'il soit derrière nous, il faut qu'on le devance, cette course contre la montre et contre le virus.
Les informations d'Ève Roger sur ce déroulé et donc cette bascule au début du mois de mars, c'est récent, hein, c'est il y a quoi, une dizaine de jours. On est avec Philippe au 39 21. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sébastien Krebs, bonsoir.
Merci de vous joindre au débat. Qu'avez-vous pensé, vous, que pensez-vous des mesures qui sont appliquées depuis midi?
Mais les mesures, j'espère qu'elles seront efficaces. Moi, je suis à Nantes et je vous garantis, alors je me suis déplacé en remplissant mon attestation pour rentrer à mon travail et quand je suis revenu, c'était impressionnant. Enfin, Nantes était vide. C'est très impressionnant. Donc les mesures, j'espère surtout qu'elles seront respectées. Mais concernant l'allocution de Monsieur Macron hier, alors il dit qu'effectivement on est en guerre, mais il n'avait pas un langage guerrier. Pourquoi il n'a pas dit confinement? Pourquoi il n'a pas été si ferme? Je rejoins complètement Madame Krupa. À force de diluer, après effectivement Monsieur Castaner a été plus direct, mais à force de que chacun parle, ça se dilue et je pense que l'effet est moindre. Monsieur Macron aurait frappé. Alors sur le fond, globalement, enfin il a été bon, ça a été bien, on a tout compris, ça a été un peu long certes, mais on a compris que c'était important. Enfin, en tout cas, moi je l'ai compris, j'espère que c'est le cas de tout le monde. Mais moi j'attendais le mot confinement, j'attendais, bah oui, pourquoi pas qu'il nous fasse peur et qu'on reste chacun chez soi et qu'on se sorte le plus rapidement possible de...
Le « nous sommes en guerre » répété plusieurs fois n'a pas suffi à votre sentiment, c'est que ça ne suffit pas à faire peur.
Oui, je pense pas, c'est une expression, alors je pense que ça a dû... M'étonne que ça ait été étudié en communication, quel mot employer, etc. Mais je veux dire, là où on en est, la communication, on s'en fout qu'on dise les choses clairement, nettement, dire les gars, faites plus n'importe quoi, parce que l'attestation, j'espère, et franchement, que tout le monde la respectera. Mais c'est n'importe qui, moi je tiens un magasin d'informatique, on avait le droit d'être ouvert encore hier. J'ai deux jeunes qui sont rentrés pour essayer d'acheter un disque dur, ils étaient à quelques centimètres de moi, je leur ai dit circuler, ils m'ont regardé en rigolant. Donc, ces gens-là, il faut leur faire peur.
Et donc là, ce sera le rôle aussi des amendes, hein. On l'a entendu avec le policier qui était en ligne avec nous tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe d'être intervenu ce soir sur Europe 1, 39-21 évidemment. Vous êtes tous les bienvenus ce soir jusqu'à 20h également sur les réseaux sociaux, le hashtag Radio Ouverte. Et vous le savez, le 39-21 est un numéro payant, mais en ce moment, Europe 1 reverse toutes les recettes à l'Institut Pasteur. On se retrouve dans quelques secondes avec les grandes voix.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs. Et Sébastien, c'est le débat des grandes voix jusqu'à 19h comme chaque soir. Mais ce soir, à distance, depuis chez eux, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique.
Et on parle de ces mesures, bien sûr, qui sont en vigueur, entrées en vigueur à midi pile tout à l'heure. Déplacement extrêmement limité. Il faut rédiger ou imprimer cette attestation sur l'honneur avec un motif précis pour sortir, faire des courses ou bien promener son chien ou avec des motifs extrêmement précis. On revient aussi sur ces déclarations d'Emmanuel Macron. Philippe, tout à l'heure au 39-21, nous disait qu'il avait trouvé Emmanuel Macron pas suffisamment... ferme dans ses déclarations d'hier soir. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi, Mickaël Darmon ?
Écoutez, tout à fait. Il a été regardé par 35 millions de personnes et je crois qu'il y a une grande majorité qui s'est dit on ne comprend pas ce que dit le président de la République. Vu tous les retours qui ont été assez immédiats et spontanés, que ce soit dans les sphères privées, que ce soit au sommet de l'État, dans les rangs du gouvernement, où on était absolument sidérés de la manière dont le président s'exprimait. Parce que on a tout à l'heure entendu parler d'une communication supposée bien séquencée. En réalité, moi, d'après ce qu'on comprend, il s'agit plutôt d'une communication contrariée. Toute la journée, avant la déclaration du président de la République, le Premier ministre a tenté de faire comprendre aussi au président qu'il fallait prononcer le mot de confinement. Lorsqu'il réunit les présidents de parti et chefs de groupe parlementaire dans la journée, il va même jusqu'à plaider en disant, vous savez, confinement, ça ne veut pas dire couvre-feu. Mais en fait, le président de la République n'a pas voulu endosser les mots difficiles. Il a préféré laisser ces mots être prononcés immédiatement après sa déclaration par le ministre de la Santé, Véran, qui a répété pas moins de 3 fois dans la même phrase, immédiatement, il s'agit de confinement. Et il a laissé Castaner parler d'interdiction. Les mots qui fâchent, il n'a pas voulu les prononcer. Et en fait, le mantra sur « nous sommes en guerre » qui a joué comme une sorte au fond de trompe-l'œil, en réalité a permis aussi au président de ne pas être en première ligne en ce qui concerne la terminologie. Et ça a été remarqué. Et ça, on le voit bien en Macronie, qu'il y a un trouble depuis cette déclaration hier.
Oui, on sent que le gouvernement est entre deux chaises, essaye d'être sur une ligne de crête entre pédagogie d'un côté et fermeté de l'autre. Ça va être difficile à tenir, probablement, Laetitia Krupa. La fermeté, ça va être les sanctions. On l'a bien compris en entendant les policiers aujourd'hui. Il a fallu crier dans la rue pour demander aux gens de rentrer chez eux. La seule manière de faire, ça va être la fermeté, en fait.
Revenir sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a choisi de concentrer les pouvoirs, on le sait tous. Il les dirige avec très peu de personnes autour de lui et c'est lui qui décide in fine. Donc quand il faut faire une communication où 35 millions de Français vous regardent, il faut prendre tous les degrés de la communication à son compte, c'est-à-dire les mots et aussi les détails concrets. C'est ce qu'on attendait hier soir. Après, pour la fermeté, aujourd'hui, il y a eu, si vous voulez, un round d'essai, c'est-à-dire que effectivement les patrouilles se sont déployées et que les policiers sont allés au contact de la population, mais aucune verbalisation n'a eu lieu. Donc ce sera à partir de demain que les contraventions vont être dressées. Là, c'était une journée pour sensibiliser, pour expliquer, pour tenter de faire passer encore une fois le message pour que demain, le confinement soit le plus complet possible. Alors, il reste quand même des zones troubles, je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas, moi, sur qui peut aller travailler ou pas, qui décide que le télétravail est possible ou pas, est-ce que ce sont les employeurs, est-ce que ce sont les employés, il y a quand même quelque chose d'un petit peu encore flou, il me semble, qu'il faudra affiner avec dans les jours à venir.
Oui, parce que Ève Roger, le gouvernement a choisi finalement de ne pas lister les métiers qui sont autorisés à travailler. Finalement, tout le monde est autorisé sur le papier à travailler. C'est ça peut-être aussi qui provoque un flou.
Peut-être. Et puis, il y a aussi la date. Je ne sais pas si hier, vous avez entendu les rumeurs les plus folles. On disait 40, 45 jours. Et puis, il arrive le soir, le président de la République, en disant c'est 15 jours. Donc, c'est vrai qu'on a tous été un peu étonnés aussi par ces deux semaines plutôt que plus longtemps. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est, je ne sais pas si je vais être capable de vous l'expliquer, mais en réalité, si vous mettez tout le monde en confinement de façon extrêmement stricte, ça veut dire que vous mettez la ville et le pays sous cloche. À quel moment vous allez lever la cloche et dans quel état vous allez trouver les gens? Ça veut dire que le virus n'aura pas circulé dans la population et si le virus ne circule pas dans la population, à la moindre étincelle, ça repart de plus belle.
Donc vous comprenez. Il peut revenir après, c'est ça la question.
Il peut absolument revenir après. Donc le confinement ultra strict n'est pas forcément peut-être la meilleure des solutions. Il faut laisser le virus circuler un tout petit peu, suffisamment pour que la population connaissez ce concept d'immunité collective, c'est-à-dire qu'à un moment si le virus a traversé la population, eh ben il s'éteindra de lui-même.
Donc il y a ça aussi. On dit au moins la moitié de la population.
Là aussi, les scientifiques du Conseil disaient cet après-midi, en réalité, on ne sait pas très bien. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Tous les modèles circulent et il y a autant de modèles que de chiffres et autant de chiffres que de modèles. Mais disons qu'il y a quand même cette préoccupation-là. En Chine, par exemple, rien ne dit qu'une fois que le confinement est levé, qui a été ultra strict, on ne sait pas si à un moment ou à un autre, le virus ne va pas reprendre une vie à travers la population.
Est-ce qu'on
Donc ça, c'est un élément important.
Que disent les scientifiques? Au bout de combien de temps on saura si ces mesures de confinement qui débutent aujourd'hui ont un effet et produisent des effets?
Alors, là, il y a une réponse là qui est assez claire, c'est pas avant 15 jours. Parce que 15 jours, c'est le temps pour quelqu'un d'incuber, de déclarer la maladie et d'aller ou non en réanimation. Donc c'est dans 15 jours, on va regarder si le nombre de personnes en réanimation commence à baisser ou pas. Aujourd'hui, le chiffre, il est de 550 personnes en réanimation. Dans 15 jours, il faudra faire la comparaison. Donc ce qui est absolument sûr et certain, c'est que on va être confiné beaucoup plus que 15 jours, enfin plus en tout cas que 15 jours, ça va être prolongé. Mais ça veut dire que c'est à partir de là qu'on verra les effets et à ce moment-là, on adaptera toujours. Alors vous dites, ils se réfugient derrière le comité des scientifiques. Moi, je ne crois pas que c'est se réfugier, c'est ce qu'on appelle l'éclairage politique de la décision politique. C'est à ce moment-là qu'on verra combien de temps encore il faut prolonger le confinement si et seulement si les cas commencent à être moins nombreux dans les services de réanimation.
Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dit aujourd'hui que ce confinement pourra être allégé dans 15 jours si la situation s'apaise.
C'est une autre possibilité, absolument.
Il a dit allégé, il n'a pas dit supprimé ou suspendu. Donc effectivement, on peut s'attendre à ce que ça dure plus que 15 jours. Olivier est avec nous au 39-21. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1.
Bonsoir à vous, merci. Alors moi, je voudrais savoir, poser une question. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, pourquoi les hommes politiques aujourd'hui sont en face, pour moi ils sont en face d'une situation, c'est quand même eux qui ont, à politique confondue, qui ont quand même passer des textes de loi qui ont supprimé des ailes d'hôpital, supprimé des lits, supprimé du personnel dans les hôpitaux. Aujourd'hui, ces gens-là, tous de bords politiques confondus, devraient rentrer quand même devant une glace et se dire « ben, on a quand même fait quelque chose de mal aujourd'hui ». Parce que quand on voit, par rapport à ce fléau-là, qui est le coronavirus, ce virus-là, on en a pour combien de temps ? On ne sait pas. Alors, aujourd'hui, pourquoi ? Parce que on dit, à un certain moment, on va supprimer des postes dans les hôpitaux, on va supprimer des postes dans l'enseignement, et ainsi de suite. Et quand on est devant le fait accompli, quand on est devant un gros problème, tout le monde se rejette un petit peu la balle. Aujourd'hui, voilà.
Peut-être
quoi.
Une toute petite réaction, Olivier, d'Ève Roger, qui connaît bien ce sujet-là. Ève, est-ce qu'on est en train de payer, en gros, les dégâts et le mauvais état de l'hôpital public aujourd'hui ?
Ah bah je ne crois pas, je dirais c'est presque plutôt l'inverse. C'est incroyable la mobilisation du personnel soignant et des hôpitaux aujourd'hui. Ça sera après. La facture, elle viendra après l'épidémie. On verra le nombre de personnes d'abord qui auront été contaminées, le nombre tous les effets de l'épidémie dans les hôpitaux, plus ajouté à la crise de l'hôpital public, on verra ça après. Mais pour l'instant, au contraire, je crois que l'hôpital, et je crois qu'on va les applaudir ce soir à 20h, de notre balcon, l'hôpital fait vraiment le mieux possible. C'est vraiment l'excellence de l'hôpital public qui est là en œuvre.
Et l'excellence aussi de l'armée française, puisque les armées viennent en aide désormais aux hôpitaux, avec un hôpital de campagne qui va être mis en place en Alsace, et avec des transferts de malades depuis l'Alsace dont les hôpitaux sont saturés vers le sud de la France. On l'a appris aujourd'hui. Je voudrais qu'on termine peut-être avec vous, Mickaël Darmon, sur les déclarations du jour. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 18h. D'Agnès Buzyn, qui se lâche complètement dans un article du journal Le Monde. Elle explique qu'elle a très très mal vécu cette campagne des municipales. Et surtout, elle dit « J'avais prévenu le Premier ministre, on aurait dû tout arrêter bien avant ».
Oui, alors ça c'est la nouvelle déflagration au cœur de la Macronie, qui est toujours très créative pour donc rebondir de polémique en polémique. Ce que vient de dire là Agnès Buzyn, même si elle a produit il y a maintenant de cela une heure un communiqué de presse tout en contrition pour dire que ses propos en avaient été pris dans un certain contexte et qu'elle soutenait quand même le gouvernement, tout en regrettant le terme de mascarade. Ça, c'est donc pour dire aussi de son côté ce qu'elle a voulu exprimer, mais il n'empêche que elle soulève une question extrêmement grave et qui sera très certainement, qui fera le miel de l'opposition et de tous ceux qui veulent critiquer, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que savaient réellement les autorités, le cœur de l'appareil de l'État, sur la réalité de la situation. Et le fait qu'elle ait posé ses propos explosifs sur la table, eh bien, effectivement, vont soulever cette polémique. Il y a également un autre aspect que l'on peut envisager, puisque dans cet article-là, elle annonce qu'elle a demandé sa réintégration à l'hôpital. On a quand même aussi le sentiment que, quelque part, eh bien, elle vient peut-être un peu rejoindre le discours du corps médical, et comme si il fallait qu'elle puisse s'éloigner du monde politique et peut-être revenir vers les médecins et donc s'aligner un petit peu sur leur discours. Parce que la question centrale maintenant, c'est au mois de juin, il y aura un second tour donc pour à Paris notamment. Sera-t-elle encore candidate ? Est-ce que La République En Marche va être obligée de chercher encore un nouveau candidat ou une nouvelle candidate pour terminer cette élection ? C'est encore l'imbroglio qui continue. Puis enfin... alors que tout le monde n'arrête pas d'avoir aussi Macron le premier des propos pour dire on va finalement s'en sortir, et les médecins, on vient d'écouter avec Ève Roger, calibre au plus près les évolutions de l'épidémie, elle lâche, il va y avoir des milliers de morts. Donc c'est absolument incompréhensible, sinon à comprendre qu'elle est en train aussi de tenter une réintégration vers ce monde médical,
vers l'hôpital, qu'elle a quitté pour la politique. Et elle dit qu'elle ne sait pas de quoi son avenir sera fait. En tout cas, elle ne parle plus du tout de politique dans cet avenir. Elle parle aussi de ses larmes le jour de son départ du ministère de la Santé, en disant que ses larmes, c'était aussi parce qu'elle savait que la vague du tsunami de ce virus était devant nous. Merci. Les grandes voix, Laetitia Krupp pas ce soir, Mickaël Darmon et Ève Roger.
Elle reste
un dernier mot très rapide.
Elle dit qu'elle reste candidate. qu'elle resterait candidate. Hein. Donc, pour l'instant,
son
c'est quand même.
Son équipe a envie d'y croire pour l'instant.
Oui, ah oui. Ah bah, peut-être, mais enfin, il faudrait que tout ça soit absolument, parce que moi, il me semble que ce que Agnès Buzyn a fait aujourd'hui, c'est sa sortie définitive de la politique.
Ça y ressemble,
absolument,
en tout cas.
C'est irresponsable d'avoir donné une interview de cette tonalité-là dans cette actualité-là. C'est irresponsable.
Merci à tous les trois. Le journal de 19h d'Isabelle Millet dans quelques secondes. À tout de suite.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs.
Et dans un dispositif tout à fait particulier, puisque c'est de chez moi que je vous accompagne jusqu'à 20h. Nous sommes tous à distance, en respectant les règles de confinement pour vous accompagner. Donc jusqu'à 20h, 19h10, Aurélie Herbemont reçoit donc à distance la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, invitée politique d'Europe 1 ce soir. Et à partir de 19h30, on répondra à toutes vos questions avec le docteur Jimmy Mohamed, avec Emmanuel Duteil pour l'aspect économique et entreprise. Et avec Alain Acco du service police-justice sur cette nouvelle disposition et sur les contrôles de police qui sont en train de se mettre en place partout en France. Restez avec nous.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Oui, je suis inquiet parce que je me dis que peut-être que nos hôpitaux ou les médecins généralistes vont être saturés à cause de l'irresponsabilité peut-être de gens qui quittent leur ville pour venir ici.
Les Français de la campagne voient d'un mauvais œil débarquer les Français des villes venus se mettre au vert le temps du confinement. Ils s'inquiètent surtout de la capacité d'accueil de leurs hôpitaux.
Comme en Italie ce soir, les Français devraient applaudir les héros. Appel à se rassembler aux fenêtres à 20h. Ces soignants à qui tous veulent rendre un hommage unanime.
On verra également dans ce journal combien la gestion des entreprises en ce moment est compliquée. Pour les plus petites, bien sûr, mais aussi pour les plus grosses. Les syndicats demandent par exemple la fermeture des chantiers de l'Atlantique. Situation préoccupante aussi dans les prisons, où la promiscuité pourrait être un vecteur de propagation du virus. Et puis aucun sport n'est épargné. Roland Garros reporté. L'Euro 2020 de foot se jouera, lui, en 2021.
Anissa, la couleur du ciel de l'autre côté de la fenêtre pour demain.
Eh bien, demain, le ciel sera bleu avec quelques rayons de jaune parce que c'est encore le soleil qui va dominer demain sur une grande partie de la France. Nous aurons quelques nuages au nord. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
En ces temps de guerre, comme l'a répété hier soir à plusieurs reprises Emmanuel Macron, la priorité c'est donc d'empêcher la propagation du virus. Et la seule consigne depuis midi, c'est de rester chez soi.
Mais rester chez soi n'empêche pas de conserver sa bonne humeur, en tout cas d'essayer. Vous avez sans doute vu ces vidéos d'Italiens qui chantent à tue-tête sur les balcons ou encore qui décident de faire une ovation, un tonnerre d'applaudissements pour les soignants. Cet hommage aux soignants, eh bien apparemment les Français ont l'intention de l'imiter ce soir à 20h, Jean-Sébastien Soldaini.
Exactement le même appel lancé sur les réseaux sociaux. Il y a 2 heures, le hashtag on applaudit était partagé plusieurs milliers de fois. La page Facebook approche des 3000 participants et plusieurs députés ont relayé cet appel, cette mobilisation symbolique pour soutenir le personnel soignant, ceux qui sont en première ligne face à cette épidémie de coronavirus, ceux qui sont les premiers à s'exposer à une contamination. La prise de risque est saluée, évidemment. Et puis il y a le soutien à ces médecins, infirmiers, agents d'accueil, ambulanciers, toutes ces personnes aujourd'hui débordées. Mais ce ne sera pas qu'à 20h a priori, car plusieurs appels ont été lancés. Cela se produira peut-être à chaque heure de la soirée, peut-être même dès maintenant dans certaines villes de France et jusqu'à 22h.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. En tout cas, on le suivra bien sûr en direct ce soir sur Europe 1 et notamment tout à l'heure dans votre flash de 20h. Policiers et gendarmes sont bien sûr déployés dans tout le pays depuis la mi-journée pour faire appliquer le confinement et respecter surtout les interdictions de sortie. Pour aujourd'hui, il s'agissait surtout de pédagogie, mais attention, à partir de demain, vous devrez justifier de toutes vos sorties en fournissant une attestation sur l'honneur, faute de quoi vous devrez acquitter une amende de 38 € dans un premier temps, ça passera ensuite à 135 €.
Alors ce soir, le périphérique parisien est complètement désert, mais ces dernières heures, on a vu beaucoup de voitures partir des grandes villes. Certains, pour éviter de passer des jours, voire des semaines dans leur petit appartement confiné, ont choisi de rejoindre des espaces plus aérés, la maison de campagne par exemple. Et bien sauf que cette initiative n'est pas du tout appréciée par la population locale, qui voit d'un très mauvais œil ces urbains qui débarquent.
Et oui, à l'image de Rémi, un habitant de Cabourg en Normandie, qui voit arriver les Parisiens en masse depuis hier, et il ne cache pas son inquiétude, notamment sur la capacité des structures de santé de son territoire à faire face à un tel afflux.
On voit que les Parisiens arrivent, il suffit de voir sur les parkings des résidences, effectivement, ce qui est tout à fait inhabituel à cette période-là. Donc, je ne le vois pas forcément d'un bon œil parce que je pense que ça peut être pire. Je me dis, est-ce que finalement, le système de santé sera à même de pouvoir gérer toute cette population en plus en Normandie? On n'est pas forcément aussi bien doté en médecins de campagne et en hôpitaux, en structures hospitalières. Et donc là, oui, je suis inquiet parce que je me dis que peut-être que nos hôpitaux ou les médecins généralistes vont être saturés à cause de l'irresponsabilité peut-être de gens qui quittent leur ville pour venir ici.
Rémi, habitant de Cabourg, joint pour Europe 1 par Roman. Ok, ce virus touche plus de 6000 personnes en France et met à l'arrêt une partie de l'économie. On le sait, le ministre Bruno Le Maire a annoncé de nouvelles mesures pour aider les entreprises. Le gouvernement débloque 45 milliards d'euros et évoque même la possibilité de nationalisation. Des entreprises qui, comme tout le monde, doivent s'organiser pour maintenir leur activité tout en protégeant leurs salariés. Un exemple de la difficulté rencontrée, alors que les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire ont décidé de maintenir leur activité, eh bien les ouvriers ont refusé de commencer le travail ce matin. Le reportage sur place de Charles Guyard.
On pourrait penser qu'une entreprise dont l'État est actionnaire majoritaire devrait montrer l'exemple au reste du pays. À Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique restent pourtant ouverts alors que les syndicats réclament leur fermeture depuis hier soir. Philippe Casse, le responsable de la communication.
Ils ont été partiellement entendus, puisqu'il y a fermeture des ateliers. Les usines qui ont des commandes, elles peuvent pas bénéficier de mesures de chômage partiel. Ce serait mettre en péril l'activité que de fermer complètement les chantiers.
Qui, en effet, ont acté la fermeture des ateliers tôleries ce mardi midi et ce pour 4 jours au moins. En attendant, il reste encore 5 à 6 000 personnes présentes sur le site, des sous-traitants sur lesquels la direction n'a aucune emprise, tient-elle à préciser. Mais pour Nathalie Durand-Primban, une de Force ouvrière, le maintien d'une partie de l'activité, c'est un non-sens absolu.
Les chantiers, si vous voulez, tout le monde à Saint-Nazaire, un proche, un ami, un membre de sa famille, si vous avez ne serait-ce qu'un cas de coronavirus, ça peut prendre dans des proportions incroyables. Nous ne sommes pas une entreprise indispensable aujourd'hui.
Et une réunion avec la direction doit se tenir vendredi pour réévaluer la situation. Le lendemain, samedi, 1200 membres d'équipage déjà sur place à Saint-Nazaire doivent prendre la mer à la barre du Celebrity Apex, le dernier né des chantiers.
Le reportage de Charles Guyard au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire.
Et l'inquiétude touche aussi les prisons. Après les premiers cas de contamination détectés, 3 personnes à la maison d'arrêt de Fresnes, un détenu et 2 infirmières qui ont été diagnostiquées positives.
Et l'inquiétude des avocats de la Défense grandit quant à l'exposition des prisonniers au coronavirus et au risque donc de sa propagation dans les prisons. Marion Dubreuil.
Oui, c'est le cas de Margot Durand-Pointclou. Cette avocate a déposé dès hier 5 demandes de mise en liberté pour des clients actuellement en détention provisoire qui sont domiciliés en France.
On nous dit d'un côté au niveau du gouvernement qu'il faut absolument se distancer socialement, faire très attention à toutes nos interactions puisqu'on a une pandémie dramatique dans toute la France. Et d'un autre côté, on le sait, on a une situation de surpopulation carcérale, des cellules de 9 mètres carrés où on est 2, où on est 3. Je ne vois pas dans ces conditions, comment on peut prévenir une épidémie dans les murs. Le suivi médical en détention, il est très compliqué déjà d'habitude. Alors imaginez si on a une multiplication des cas en détention.
La direction de l'administration pénitentiaire explique avoir mis en œuvre des mesures d'hygiène renforcées. Dès les premiers symptômes, des procédures de confinement et de quatorzaine sont mises en place dans les 188 établissements pénitentiaires de France. Enfin, pour éviter les contagions, les parloirs ont été interrompus. Les promenades en plein air, elles sont maintenues, mais adapté pour respecter le mètre de distance entre chaque détenu.
Les précisions de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Notez qu'un début de mutinerie a eu lieu ce matin à la prison de Grasse après l'annonce justement de l'arrêt de tous les parloirs pour empêcher la propagation du virus. Et puis à la prison de la Santé à Paris également, des détenus ont refusé de rejoindre leurs cellules. Le monde du sport, lui, ne compte plus les annulations ou les reports. Dernière en date, le tournoi de tennis de Roland-Garros qui se jouera finalement fin septembre. La course cycliste Paris-Roubaix est elle aussi reportée à une date ultérieure. Et puis, c'est confirmé, l'Euro de foot est repoussé, Cyril de la Morinerie. Alors, on s'y attendait très clairement. Ce report s'ajoute à la longue liste désormais des compétitions annulées ou reportées, Cyril.
Oui, l'UEFA a pris ses décisions inédites pour préserver la santé de l'ensemble des acteurs du football. L'Euro est donc repoussé à l'été 2021, 11 juin, 11 juillet 2021. Une position sage et pragmatique, explique le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, dans un communiqué. Ce report d'un an évitera l'image désastreuse de stade vide et surtout va libérer les dates, pour finir l'ensemble des compétitions actuellement à l'arrêt. L'UEFA annonce d'ailleurs la création d'un groupe de travail pour examiner les solutions en termes de calendrier. Autrement dit, la Ligue des Champions, la Ligue Europa qui viennent officiellement d'être suspendues jusqu'à nouvel ordre pourraient se dérouler en juin prochain, même si rien n'est encore fixé. Quant au championnat domestique, la Ligue 1, la Ligue 2, ils devraient ainsi aller à leur terme. Didier Quillot, directeur général de la Ligue Football Professionnel que je viens d'avoir en ligne lors d'une conférence téléphonique, souhaite que ces championnats se terminent au plus tard le 30 juin, si c'est possible évidemment en fonction donc des conditions sanitaires. Par ailleurs, les supporters qui ont acheté des billets pour la compétition de l'Euro, mais qui ne pourraient pas se rendre donc à l'Euro en 2021, seront intégralement remboursés, assure l'UEFA.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Et puis précisons en revanche que pour le moment, les Jeux de Tokyo, les Jeux Olympiques, sont pour l'instant maintenus, décision que ne comprennent pas d'ailleurs certains présidents de fédérations.
Ouais, des JO de Tokyo qui semblent très compliqués à préparer, surtout pour les athlètes qui sont, comme nous tous, confinés. Merci Isabelle Millet pour ce journal complet. Vous revenez à 19h30 pour les principaux titres. Anissa, demain, on va pouvoir aller faire un petit footing. Ça fait partie des sorties autorisées.
Ah oui, si vous avez le droit. Si, mais alors tout seul, Sébastien.
Tout seul. En tout cas, ça sera une belle journée.
Mais ça sera une belle journée, effectivement, si vous avez prévu d'aller faire du sport tout seul. Eh bien, le temps sera très agréable puisque c'est une journée printanière. Alors, pour commencer la journée, il faut savoir que sur la Lorraine, le centre Val-de-Loire, la Garonne, l'Alsace et le Massif central, nous aurons des brouillards et des brumes qui vont se dissiper au fil des heures. Et puis dans l'après-midi, le ciel sera sur l'ensemble de la France bien dégagé et ensoleillé. Sur les Ardennes, l'Alsace, le Nivernais et la Bourgogne, dans ces régions, quelques nuages pourront venir un petit peu masquer de temps en temps le soleil, mais enfin rien de très inquiétant. Sur le littoral du Cotentin et de la mer du Nord, nous aurons un léger vent qui va souffler, mais très léger. Les températures, 2 degrés à Manosque et Aurillac demain matin, 4 pour Brest et Clermont-Ferrand, 6 à Toulouse, Dijon et Bordeaux, 9 pour Paris déjà au lever du jour. Et puis dans l'après-midi, elles vont grimper ces températures, 12 à 23 degrés, 14 à Lorient, 16 à Caen et Vannes, 17 à Nice, 19 degrés à Paris demain après-midi, 20 à Besançon et 22 degrés à Nîmes.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs.
Et j'aurais salué encore une fois de la performance de tous les techniciens, de tous les moyens techniques d'Europe 1, puisque tous les intervenants que vous entendez depuis le début de la journée sont sur Europe 1 sont tous à distance. Nous sommes tous à distance des uns des autres et on réussit à faire de la radio et à vous informer en temps réel, y compris donc nos invités qui sont à distance et y compris le vôtre, Aurélie Herbement, plutôt votre invité au féminin ce soir, votre interview politique dans quelques secondes. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Sébastien, et mon invité ce soir c'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. La France est confinée et des propos d'Agnès Buzyn font polémique.
A tout de suite.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs, et c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbement.
Et votre invité ce soir Aurélie, c'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National.
Bonsoir Marine Le Pen.
Bonsoir.
La France est confinée depuis midi pour au moins 15 jours. Le gouvernement a bien fait de prendre cette mesure drastique.
Oui, bien sûr. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais préféré qu'elle soit prise d'ailleurs avant, compte tenu de la rapidité de l'aggravation de la situation dans notre pays. Mais mieux vaut tard que jamais. Et je pense que, comme d'ailleurs l'ensemble de la communauté médicale, que c'est absolument le seul moyen pour pouvoir tenter de limiter la propagation de l'épidémie. On voit ce qui se passe chez nos amis italiens. Je crois que ça fait 10 jours qu'ils sont strictement confinés. Et pourtant, ils continuent à avoir, comme c'est le cas aujourd'hui, 345 morts par jour.
Marine Le Pen, cet après-midi, ce sont des propos d'Agnès Buzyn qui déclenchent la polémique. Dans Le Monde, la candidate à la mairie de Paris, ancienne ministre de la Santé jusqu'à mi-février, assure avoir alerté l'exécutif dès le 11 janvier sur le danger du coronavirus. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous, dit-elle. Comment vous réagissez à ces propos ?
Écoutez, si ces propos sont exacts, ils révèlent un possible scandale d'État. Ils devront faire l'objet d'une sévère évaluation à la fin de la crise. Parce que si c'est vrai, et pourtant on a décidé de laisser se jouer le match Lyon-Turin avec 3000 tifosi qui sont arrivés d'Italie, et pourtant on a refusé de la fermeture et la maîtrise de nos frontières, et pourtant on n'a pas pris les mesures pour anticiper la réquisition des entreprises, entreprise qui fabrique des masques, le lancement de production supplémentaire de masques, de gel hydroalcoolique pour permettre à nos soignants, aux médecins de ville, aux médecins hospitaliers, hein, aux soignants hospitaliers de pouvoir bénéficier d'une protection correcte. Donc, si vous voulez, ce qui apparaissait comme un retard systématique, faut quand même le dire, à l'allumage dans les décisions qui ont été prises par le gouvernement, se teintrait alors d'une responsabilité politique extrêmement lourde.
Alors Agnès Buzyn explique ce soir dans un communiqué avoir reçu le soutien immédiat d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe quand elle leur a fait part de son inquiétude en janvier. Et elle dit qu'ils ont toujours pris en compte les hypothèses les plus sévères et qu'elle est solidaire du gouvernement.
Oui, bien sûr, elle a dû se faire taper sur les doigts et elle rétropédale. Il n'en demeure pas moins qu'aucune décision sérieuse n'a été prise pendant des semaines et des semaines, permettez-moi, après cette prise de conscience hein, qu'évoque Madame Buzyn. Puisque moi, je me souviens très bien avoir, dès le 29 janvier, réclamé la fermeture des frontières avec les régions les plus touchées par l'épidémie. À l'époque, c'était les régions chinoises. Avoir posé une question au gouvernement en plénière de l'Assemblée nationale le 11 février sur la pénurie qui était prévisible de masques, sans avoir aucune réponse ni aucune mise en mouvement, si vous voulez, de l'appareil d'État dans ce domaine. Et puis vous savez très bien, tous les Français ont bien vu que jusqu'à encore très récemment, la communication du gouvernement consistait à dire qu'il s'agissait d'une grippe, que c'était pas grave, que la panique était plus grave que le virus, et j'en passe et des meilleurs. Donc, si vous voulez, quand
des
même,
médecins moi, aussi je veux pas, le disaient, Marine Le Pen.
Non, mais d'accord, mais les médecins, ils sont pas responsables de la vie de nos compatriotes. Ce sont les politiques qui sont en charge de cela. Ce sont les politiques qui sont chargés d'assurer la sécurité de la population. Ce sont pas tel ou tel médecin qui peuvent avoir des avis divergents. On avait un exemple, c'était la Chine. Excusez-moi, mais si moi j'avais exprimé toutes mes inquiétudes, moi qui ne suis absolument pas médecin, c'est donc en regardant ce qui se passait dans d'autres pays, il était assez facile de voir que tout à fait évidemment, contrairement à ce qu'avait dit Madame Buzyn, évidemment nous allions être touchés par l'épidémie et évidemment celle-ci allait se répandre dans les pays qui ne prenaient aucune protection pour empêcher le développement de l'épidémie. Encore une fois, il s'agit pas pour moi aujourd'hui de polémiquer, mais que ceux qui sont au gouvernement actuellement et le président de la République lui-même sachent que un jour ou l'autre, lorsque nous serons sortis de cette crise, ils auront effectivement des réponses à apporter aux questions que se posent les Français.
Marine Le Pen, vous mettez en cause la gestion par l'exécutif français, mais on le voit, nos voisins aussi tâtonnent entre guillemets avec cette épidémie face à un virus qui était inconnu il y a peu. On le voit en Italie, on le voit en Espagne, on le voit en Allemagne. Il n'y a pas que les responsables français pour le coup.
Mais madame, vous avez raison, mais il y a aussi des pays qui s'en sortent très bien. Voilà, il y a Hong Kong, il y a la Corée du Sud. Or, les pays que vous citez sont des pays qui ont été, si je puis me permettre, mal conseillés par une Union européenne dont le seul et unique message pendant presque un mois a été surtout, surtout ne maîtrisez pas les frontières, surtout ne mettez aucune limitation à la circulation aux frontières. Ça, c'est une consigne idéologique. Et en l'occurrence, c'est une consigne idéologique criminelle. Voilà, qui a été émise par l'Union européenne, puisque on voit bien, et aujourd'hui chacun l'admet, le seul moyen de limiter la propagation de l'épidémie, c'est le confinement pour la population et la maîtrise stricte des frontières. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait progressivement tous les pays européens. Nous sommes encore celui qui ne l'avons pas totalement fait. Pas totalement, nous n'avons pas fermé nos frontières. Demain, par exemple, des habitants des Pays-Bas peuvent solliciter de venir chez nous. Or, ça pose un vrai problème parce qu'aux Pays-Bas, ils ont fait un choix différent d'une autre. Non seulement ils n'ont pas confiné la population, mais eux, ils souhaitent que l'ensemble de la population soit contaminée par le virus à la recherche d'une hypothétique immunité globale dont aujourd'hui un certain nombre de médecins extrêmement sérieux comme Philippe Juvin doutent de son efficacité. En revanche, ils sont convaincus que le nombre de morts va être massif. Chez
Marine
eux,
Le Pen,
avec cette stratégie-là.
Marine Le Pen. Agnès Buzyn aussi assure en tout cas avoir alerté le Premier ministre sur la question des municipales, précisément fin janvier. Voilà ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit avoir dit au Premier ministre, en tout cas, parce que la vérité d'Agnès Buzyn n'est pas forcément la vérité. Si la France en arrive à être touchée par un pic épidémique, alors il se pourrait que les municipales ne puissent pas se tenir. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade, disait-elle dimanche soir, même si elle regrette ce terme aujourd'hui. Vous attendez des réponses du Premier ministre qui est invité aux 20h de France 2 ce soir ?
Oui, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que La République En Marche a développé auprès des médias des mensonges. Quand ils disent que tous les partis politiques ont été interrogés et consultés sur la tenue ou non du premier tour, c'est un mensonge. Clairement, c'est un mensonge. En ce qui concerne le Rassemblement National, nous n'avons pas du tout été consultés. Je crois savoir que la France Insoumise n'a pas du tout non plus été consultée.
Et il y avait eu un rendez-vous avec le Premier ministre le jeudi matin.
Mais il ne nous
en a absolument... question que les élections soient maintenues.
Mais il ne nous en a absolument pas parlé, madame. Du tout. Voilà. Il ne nous a absolument pas parlé de cela durant la réunion auquel participaient les présidents de parti. Je vous le confirme. Or, évidemment, le grand danger était celui de l'abstention. Je vous signale que j'ai été, je crois, la première à évoquer ce danger en disant la crainte qui était la mienne de voir nombre de Français s'inquiéter des risques de contamination et donc renoncer à aller voter, ce qui, évidemment, a une conséquence sur la sincérité du scrutin. De la manière la plus claire qui soit, si le gouvernement avait pris la décision de repousser l'intégralité des élections municipales, premier tour compris, j'aurais soutenu cette décision.
Parce que le conseil scientifique avait dit qu'on pouvait les tenir.
Oui, mais d'accord, mais le conseil scientifique, il n'est pas politique. Qu'est-ce que le conseil scientifique peut savoir de la manière dont les Français appréhendent le fait de se déplacer pour voter en pleine épidémie mortelle, quand même, excusez-moi, qui fait quand même beaucoup de morts, même si on ne sait plus combien il en fait, puisque Monsieur Salomon, depuis samedi, n'a plus tenu une seule conférence de presse, ce qui ne renforce pas la confiance que les Français peuvent avoir à l'égard du gouvernement. En quoi le conseil scientifique est compétent? Et pour savoir quelle va être la conséquence de la peur sur le vote, il est totalement incompétent. Ça, c'est purement une analyse politique. En tout cas, moi, j'avais fait cette analyse très tôt et il s'est avéré que j'avais raison. Beaucoup de gens ne sont pas allés voter par peur. Est-ce qu'il est sain, encore une fois, est-ce qu'il est sain que des élections dont le résultat est faussé, quoi qu'on en dise, par la peur de l'épidémie, soient considérées comme étant parfaites? Non, je ne crois pas.
Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir été mon invitée ce soir.
Europe 1.
À la suite. Sur Europe 1 avec vous.
La suite dans quelques secondes et je précise que puisque Marine Le Pen l'évoquait, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, est en ce moment même en train de donner une conférence de presse. On vous dira évidemment quel est le nouveau bilan qui sera communiqué. En l'occurrence, plus de 7700 cas désormais confirmés en France, 7730 cas précisément. Communication à l'instant. Vous restez avec nous à 19h30. Angèle Châtelier va venir nous rejoindre. On va s'aérer un petit peu dans ce contexte un peu lourd lorsque les artistes donnent des concerts, font des cadeaux à leurs fans. Hier, c'est Mathieu Chédid qui était avec nous. Elle va nous dire que d'autres artistes font aussi des cadeaux à leurs fans. Et puis, jusqu'à 20h, on répond à toutes vos questions avec les spécialistes de la rédaction sur les contrôles qui vont être mis en place dans les rues, sur la santé, bien sûr, sur ce virus, sur l'économie. Ils vous répondent au 3921 et avec le hashtag Radio Ouverte sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Et chaque soir, Sébastien Krebs, avant 19h30, Europe 1 prend un temps d'avance. On écoute le monde changer et on s'intéresse à ce qui va se passer demain.
Et on va aller en région et sur la Côte d'Azur plus précisément. Avant cela, je vous donne ce bilan qui vient tout juste d'être communiqué par le directeur général de la santé. 175 décès en France du coronavirus, c'est 27 de plus qu'hier, dont 7% en dessous de 65 ans, 7% seulement. 2500 personnes encore hospitalisées ce soir. On va sur la Côte d'Azur pour donner un coup de projecteur aussi à des initiatives solidaires qui se mettent en place dans ce contexte, notamment pour les personnes âgées. Bonsoir Frédéric Michel.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Avec par exemple l'association des petits frères des pauvres qui lance un appel à la mobilisation pour rompre l'isolement des seniors.
Effectivement, hein, Sébastien, ce travail quotidien est amplifié en ces temps de crise, car personne ne doit être laissé au bord du chemin, et surtout pas les personnes les plus fragiles. Alors on pense évidemment à nos aînés. Une ligne téléphonique pour rompre la solitude est disponible. Il s'agit du 0800 47 47 88, le 0800 47 47 88. Manuel Pinto est le directeur régional des Petits Frères des Pauvres en région PACA.
Tout un chacun, nous sommes le remède pour rompre la solitude. Imaginez dans cette ambiance aujourd'hui anxiogène où tout le monde a peur, quand vous êtes seul, avec qui vous pouvez en parler, avec qui vous pouvez dédramatiser. C'est ça la question, il faut que les personnes puissent parler et éventuellement nous alerter si elles ont besoin de quoi que ce soit. Et donc nous appelons aussi d'ailleurs tous les citoyens à avoir un élan de solidarité. S'il y a une personne âgée dans votre immeuble, sur votre palier, si vous allez faire des courses, demandez si elle a besoin de quelque chose.
Alors vous l'entendez, à chacun peut donc à son échelle agir, donner un sens à la crise que nous traversons. Ils sont en région PACA toute l'année, près d'un millier de bénévoles à donner du temps pour ces personnes isolées. Mais la chaîne peut être amplifiée.
Oui, parce que ces gestes finalement sont tout simples.
Oui, les Petits Frères des Pauvres ont tout un réseau hein, pour, s'il le faut, et en respectant toutes les consignes sanitaires, se déplacer au domicile des personnes qui en ont le plus besoin et qui le souhaitent. Mais pour rompre l'isolement, un appel téléphonique, un dialogue sur les réseaux sociaux sont autant de petits gestes hein, utiles aux soins. Demander à ses enfants de faire des dessins, envoyer des courriers et des cartes postales permettent aussi de rompre l'isolement. Et un écrit, ça reste, on peut relire et re-relire les messages. Ça aussi, c'est un médicament.
Voilà, la solidarité qui se manifeste dans ce contexte. On va essayer tous les soirs de mettre en lumière toutes ces initiatives. Merci Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur. Je rappelle le numéro de Solitude Écoute qui a été mis en place par les Petits Frères des Pauvres. C'est le 0800 47 47 88, il est accessible de 15h à 20h. Demain, dans le monde, à présent. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Et on va aller en Chine, justement. On va retourner en Chine avec une lueur d'espoir dans cette épidémie. La Chine, où les places boursières repartent à la hausse pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19.
Oui, alors cela tant en Hong Kong, d'ailleurs qu'en Chine continentale. Shanghai, Shenzhen, vraiment les grosses places financières. Certes, ce n'est qu'une prise de température économique, mais elle indique tout de même que les marchés estiment que la Chine a bel et bien passé le pic épidémique du Covid-19. Ce qui va d'ailleurs dans le sens des chiffres publiés par les autorités de Pékin, qui montrent une baisse sensible du nombre quotidien de personnes contaminées, alors qu'il ne cesse de croître sur tout le reste de la planète. On peut certes toujours douter des statistiques officielles chinoises dans leurs détails, mais la tendance, en revanche, ne fait plus aucun doute, au point que désormais, d'ailleurs, la plupart des nouveaux cas d'infection en Chine viennent de l'étranger. Hier, Pékin, par exemple, sur 16 nouveaux malades, 4 étaient victimes d'une contamination locale contre 21 qui avaient contracté le virus au cours d'un voyage à l'extérieur du pays.
Et pour autant, Didier, la vie n'est pas encore totalement revenue à la normale en Chine.
Non, évidemment, d'autant que, là encore, les autorités restent extrêmement prudentes et surtout exercent un contrôle scrupuleux sur l'ensemble des déplacements de la population à travers les forces de sécurité et les comités de vigilance locaux du Parti communiste, mais également, à plus grande échelle encore, grâce à ces applications imposées et installées sur l'ensemble des téléphones portables. La région de Hubei, par exemple, qui était le centre originel de la pandémie, reste en confinement très sévère, même si les hôpitaux de campagne construits au plus fort de la crise viennent tous d'être démontés. Ailleurs dans le pays, le ministère de l'Industrie estime que 95% des grosses entreprises et 60% des PME ont maintenant rouvert, donc on est bien sur une reprise de l'activité.
La Chine qui est déjà dans une ligne de sortie de crise, et c'est aussi encourageant, ça doit nous encourager lorsque nous rentrons dans cette période qui va encore durer plusieurs semaines. Merci Didier François, à demain.
Europe 1. À suivre avant 20h avec vous Sébastien Krebs.
Ces artistes qui chantent pendant le confinement, qui utilisent les réseaux sociaux pour faire des petits cadeaux à leurs fans, Angèle Châtelier vient nous raconter. On va écouter un peu de musique bien sûr, et puis vos questions très pratiques à nos spécialistes santé, économie, police, jusqu'à 20h. L'antenne vous est ouverte, hashtag radio ouverte sur les réseaux sociaux et 39 21. À tout de suite.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Et le rappel des titres, Isabelle Millet.
Et depuis la mi-journée, la France vit à l'italienne avec ses images de villes désertes, ses habitants calfeutrés, ce silence dans les rues, tous les déplacements ou presque sont interdits. Et comme en Italie, les Français ont l'intention de rendre hommage à leurs soignants ce soir, confinés bien sûr, à leurs fenêtres ou depuis leur balcon, on s'attend à des applaudissements nourris pour remercier ces héros du quotidien. L'Italie, où un nouveau bilan vient de tomber, 2503 décès depuis le début de l'épidémie, soit 345 de plus qu'hier. En France, 175 décès recensés, 27 de plus qu'hier, dont 7% en dessous de 65 ans. 2575 personnes sont actuellement hospitalisées. Alors qu'une partie de l'économie du pays est à l'arrêt, Bruno Le Maire a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures pour aider les entreprises. 45 milliards d'euros débloqués. La dette française dépassera les 100% du PIB cette année, prévient le ministre de l'économie. Et puis les compétitions sportives reportées les unes après les autres. On a appris aujourd'hui le report de Roland-Garros en septembre, celui de la course cycliste Paris-Roubaix et puis l'Euro de foot 2020 se jouera en 2021.
Merci Isabelle Millet, bonne soirée à vous. Anissa, la tendance météo pour demain.
Eh bien, la journée va commencer avec quelques petits nuages la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, jusque sur les Ardennes, un petit peu en Garonne aussi. Là, sur la Garonne, vous aurez des brouillards un petit peu plus fournis, un petit peu plus épais. Et puis, au fil des heures, ces brouillards vont se dissiper pour laisser place à un très beau soleil, effectivement, sur l'ensemble de la France. Demain, c'est une journée printanière, quasi sans nuages, avec un soleil très généreux. Les températures, elles sont assez douces demain, 2 à 5 degrés sur la Bretagne, 3 à 8 sur l'ensemble de la France, ça c'est pour le matin, on aura 9 degrés dès le lever du jour à Paris. Et puis dans l'après-midi, les températures sont douces et elles sont en hausse en plus, 12 à 23 degrés de Cherbourg à Cahors, 14 à Dunkerque, 18 à Strasbourg et 19 pour Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec vous Sébastien Krebs et avec toutes vos questions. Les spécialistes, les journalistes d'Europe 1 vous répondent. Hashtag Radio Ouverte sur Twitter pour réagir évidemment à ce confinement et à cette crise du Covid-19. Et puis vos questions en direct au 39-21.
Et d'abord, on va s'aérer un peu l'esprit, si vous voulez bien, Anissa, dans ce climat extrêmement lourd. Mathieu Chédid était en ligne avec nous hier pour nous annoncer son concert surprise qu'il a donné un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Les artistes offrent comme ça des cadeaux à leurs fans sur Internet. Il faut les suivre. Ils jouent comme ça sur Internet, faute de pouvoir être sur scène. Et il n'est pas le seul, Mathieu Chédid. Bonsoir, Angèle Châtelier.
Bonsoir.
Et vous suivez depuis chez vous tous ces artistes qui donnent des concerts. Il y en a eu un certain nombre depuis quelques jours.
Oui, outre Mathieu Chédid, Jean-Louis Aubert nous a offert 1h30 de concert sur son compte Facebook sous ce hashtag « Ensemble à la maison ».
J'ai les yeux fermés.
Together at home, c'est aussi le mot-clé de Chris Martin, leader de Coldplay, qui a fait un concert depuis chez lui en Angleterre, en reprenant notamment Life on Mars de David Bowie ou les plus grands tubes de Coldplay comme Yellow.
Look at the stars, look how they shine for you. And all the things you do, they were all yellow.
Christine and the Queens, revenue avec de nouveaux titres il y a quelques semaines, elle n'hésite pas à parler de son ennui à venir et pour l'apaiser, elle a fait un concert sur Instagram, c'était depuis son studio d'enregistrement avant que l'on soit tous confinés pour de bon.
Quand je suis dehors, soleil me brûle encore.
Chanteuse brésilienne Flavia Coelho aussi compte faire des lives tous les soirs autant que possible.
Et puis alors Angèle Châtelier, il y a aussi des artistes plus méconnus et même de la musique classique.
Oui, beaucoup ont vu ces vidéos d'Italiens chantant sur leur balcon. À midi pile, aujourd'hui, le collectif Classical Revolution, qui d'ordinaire fait des concerts dans des lieux insolites, a appelé tous ses musiciens à interpréter des œuvres de Bach depuis leur balcon tous les mardis. Et puis parmi les concerts à venir, suivez aussi Kerenan sur ses réseaux sociaux. Elle devrait en faire depuis chez elle. Et enfin, Jeanne Haddad n'a a priori pas la connexion internet suffisante hein, pour faire des concerts de chez elle, mais elle publiait en début de semaine une reprise d'une chanteuse de soul. Mais alors attention, en plaisantant, elle a dit « Ne l'écoutez pas si vous n'avez pas le moral ». Mais à savoir quand même, c'est parfois cathartique. Hein, et puis Europe 1 est là avec vous.
Voilà, c'était Desiree, hein, que la chanteuse dont vous parliez. Alors, je crois qu'on a plus l'extrait, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est des petits problèmes techniques, ça peut arriver aussi. Merci Angèle Châtelier, spécialiste musique d'Europe 1 Internet, qui se transforme en salle de spectacle géante et gratuite. Et j'ajoute que l'Opéra de Paris met aussi en ligne plusieurs spectacles gratuitement. Manon, Don Giovanni, Le Lac des Cygnes, Le Barbier de Séville. Il y en aura un par semaine jusqu'au début du mois de mai. Vous le retrouvez sur le site de l'Opéra de Paris. Voilà comment un peu bien s'occuper à la maison en ces temps de confinement.
Dans un instant, Europe 1. Toutes vos questions au 39-21 et sur le hashtag Radio Ouverte. C'est maintenant que ça se passe. Nos spécialistes vous répondent en direct jusqu'à 20h. Europe 1 vous accompagne encore plus dans ces moments particuliers. Alors n'hésitez pas, 39-21 ou le hashtag Radio Ouverte. A tout de suite avec Sébastien Krebs. C'est votre grand journal du soir. Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec nos spécialistes qui répondent à toutes vos questions jusqu'à 20h. Ça se passe au 39-21 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte. Avec vous, Sébastien, ce soir, Alain Accot, chef du service police-justice d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin ici à Europe 1.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
On est tous à distance, mais la rédaction d'Europe 1 et ses experts sont évidemment mobilisés pour répondre à toutes vos questions. 39-21, j'accueille Mouna ce soir. Bonsoir Mouna. Est-ce que Mouna est avec nous? Alors visiblement, on n'a pas Mouna. Peut-être je peux me tourner vers vous d'abord, Alain Accot, puisque ces nouvelles mesures de confinement sont entrées en vigueur aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en redire un mot? Quel est le mode d'emploi si je veux sortir de chez moi? Il y a donc cette attestation. Si j'ai pas d'imprimante chez moi, par exemple, est-ce que je peux l'écrire à la main?
Oui, tout à fait. Vous, sur papier libre, vous recopiez l'attestation qui est disponible donc sur le site internet du ministère de l'Intérieur, mais que vous retrouvez un petit peu partout, qui explique pour quelles raisons, pour chaque déplacement hors de votre domicile, vous êtes donc sorti avec les différentes raisons autorisées, hein, raisons professionnelles, mais dans ce cas-là, il vous faudra aussi un justificatif validé par votre employeur. C'est donc qu'il faut deux documents, un document permanent de l'employeur et un document quotidien ou multi-quotidien si vous sortez plusieurs fois par jour et si vous faites un aller et un retour, par exemple pour le travail. Et puis ensuite, il y a les autres raisons familiales, impératives, de santé pour aller à la pharmacie ou voir un médecin, par exemple.
Voilà. On a reçu beaucoup de questions aujourd'hui, et notamment, est-ce que je dois la refaire à chaque fois? À chaque fois, on doit réécrire?
Oui. Exactement. Ou alors peut-être que si les policiers sont conciliants, ils accepteront le TIPEX ou vous changez la date. Mais pour les raisons et la date, enfin, il faut vraiment que ce document soit daté. Et c'est aussi une manière de responsabiliser les Français. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent, ils vont devoir prendre un bout de papier ou réécrire ou juste compléter la date sur le document pré-imprimé. Mais c'est pour vraiment vous sensibiliser, nous sensibiliser au fait que je sors, je prends et je donne, je prends un risque pour moi et pour les autres. Il faut que j'en sois conscient. Il faut que c'est une petite charge supplémentaire qui vous fait prendre conscience de cela.
Ouais, c'est pas anodin. Lorsque je sors, il faut qu'il y ait un motif précis. On a retrouvé Mouna au 39-21. Bonsoir Mouna.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors, sur Europe 1, cousine, vous écoute.
Merci. Ma cousine est enceinte. Est-ce qu'il y a des risques pour son bébé si elle attrape le coronavirus?
Alors, docteur Jimmy Mohamed.
Alors, des données qu'on a. Alors, c'est vrai que désormais, à chaque fois qu'on annonce quelque chose, il faut qu'on soit très prudent. Initialement, on avait dit que le coronavirus ne toucherait que les personnes âgées et on se rend compte que les plus jeunes sont aussi touchés. Les données actuelles montraient que le coronavirus n'est pas transmissible à l'enfant qui est à naître. Donc, il n'y a pas de risque de transmission de mère-enfant et il ne serait pas non plus responsable de malformations. En revanche, on a l'impression, malgré tout, que des femmes qui sont enceintes au troisième trimestre pourraient faire des formes plus sévères et plus graves de coronavirus que les autres, raison pour laquelle il faut absolument rester chez soi. Et ce risque, pour l'instant, il est estimé tel quel, mais il faudra attendre quelques semaines et peut-être qu'on aura les conclusions dans plusieurs mois simplement. Donc dans l'état actuel des choses, oui, considérer qu'il y a un risque, mais pour la maman plus que pour l'enfant.
Voilà pour cette réponse. Mouna, merci d'avoir composé le 39-21. J'en rajoute juste une petite question, docteur Jimmy Mohamed. On a entendu aujourd'hui que les ventes de paracétamol, hein, de Doliprane et d'autres marques de paracétamol vont être restreintes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait vraiment une ruée et un risque de pénurie ?
Oui, parce qu'initialement, on a expliqué à juste titre qu'il ne fallait pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'Advil, l'ibuprofène ou l'aspirine. On nous a dit, si jamais vous avez de la fièvre, prenez du paracétamol. Et le paracétamol est devenu ce médicament qui semblait tout d'un coup extraordinaire, que les gens se sont rués dans les pharmacies. Ils ont acheté, j'ai vu des gens, alors qu'ils n'étaient pas malades, acheter 10 boîtes chacun, puisqu'il est en accès libre. Et donc, si tous les Français font ça, ça organise la pénurie. Et donc, désormais, il y a une restriction. Non pas qu'on va manquer de paracétamol, mais c'est pour organiser les choses. Si jamais vous n'avez aucun symptôme, vous pourrez récupérer une boîte de paracétamol, largement suffisant. Et si vous êtes malade, si vous avez une ordonnance du médecin, vous pourrez récupérer deux boîtes, de quoi tenir 2-3 jours. Donc, pour l'instant, cette mesure, elle est nécessaire. Et c'est l'agence du médicament qui l'a décrétée.
Et c'est aussi un appel au civisme et de, évidemment de laisser ces médicaments pour ceux qui en ont vraiment besoin. Antoine est au 39-21. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, ma question est plus d'ordre économique. J'ai deux collègues de travail qui sont mis au chômage partiel à partir d'aujourd'hui. À la fin du mois de mars, qui est-ce qui va concrètement les payer ? Est-ce que c'est l'employeur ou est-ce que c'est Pôle emploi ?
Emmanuel Dutheil. Vous répondez.
Eh bien, c'est l'État, hein, qui va payer le chômage partiel. Je vous rappelle la législation, c'est-à-dire que vous avez 84% du salaire net quand c'est ça. Le plafond a été relevé, hein, ça va jusqu'à 4,5 fois le SMIC pour pouvoir bénéficier d'un salaire. Et c'est l'État qui paye cette partie et qui payera une grande partie des collaborateurs qui seront au chômage partiel. Alors, il y aura sûrement quelques ratés d'ici à la fin du mois, puisqu'il y a tellement de demandes de la part des entreprises pour obtenir ce dispositif du chômage partiel que le temps de réponse du gouvernement est plus long. Jusque-là, le gouvernement répondait en 2-3 jours, mais là, c'est un petit peu plus long, 4-5 jours. Donc, il va sûrement y avoir quelques ratés, au moins au démarrage, tellement qu'il y a de demandes de la part des entreprises en difficulté.
Voilà, l'État qui va prendre le relais, ça va évidemment coûter extrêmement cher. Emmanuel Dutheil, là on parle désormais d'un déficit qui serait proche de 4%, d'une France qui va rester en récession, d'une dette qui va exploser. Tout ça, c'est très sérieux, c'est grave.
Alors, est-ce que c'est grave ? Non, pour le moment, puisqu'il fallait faire ça pour essayer de relancer la machine. Là, qu'est-ce que fait le gouvernement ? C'est injecter beaucoup d'argent via ce chômage partiel, via des reports de charges, via des prêts garantis de la part de l'État, pour essayer d'éviter les faillites. Il y aura sûrement quelques faillites, mais l'idée, c'est d'essayer de les limiter au maximum, d'essayer de tenir ces entreprises pour que, quand cette crise s'arrêtera, d'ici quelques mois sûrement, eh bien, ça puisse repartir et ça puisse repartir très fort. Donc, pour le moment, on fait le dos rond et oui, on fait exploser notre déficit, mais avec l'espoir que ça reparte derrière. On sera un petit peu abîmé collectivement, la France, les entreprises, sûrement certains collaborateurs, mais c'est absolument nécessaire pour essayer de passer cette crise.
On a beaucoup de questions et vous avez beaucoup de questions au 39-21. Emmanuel Dutheil, le docteur Jimmy Mohamed et Alain Accoux vous répondent jusqu'à 20h. À tout de suite.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Sébastien Krebs. Et avec toutes les questions des auditeurs, effectivement, des spécialistes sont là pour y répondre. Alain Accoux, chef du service police-justice, Emmanuel Dutheil, chef du service économie, et le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin ici à Europe 1.
Radio ouverte, hein, c'est notre hashtag sur les réseaux sociaux, le 39-21 pour nous joindre. Et Europe 1 désormais reverse les recettes du 39-21 à l'Institut Pasteur. Ossine est avec nous ce soir. Bonsoir Ossine.
Bonsoir monsieur, bonsoir.
Bienvenue à vous, nous écoutons votre question.
Alors moi je suis quelqu'un qui a eu une myocardite en 2017. Je voudrais poser la question au docteur, est-ce que je fais partie des personnes à risque ?
Alors déjà on va expliquer, la myocardite c'est l'inflammation du cœur, souvent d'origine virale, vous attrapez un virus et une inflammation qui vous donne des douleurs qui ressemblent en gros à un infarctus, mais c'est pas un infarctus. Dans l'état actuel des connaissances, et encore une fois les choses peuvent évoluer, on a le sentiment que les personnes qui sont un peu plus à risque, et c'est des réanimateurs qui nous l'expliquent, sont les personnes qui ont de l'hypertension artérielle, qui ont du diabète, voire un peu de surpoids. Mais ces facteurs pour l'instant, on n'est pas certain qu'ils peuvent peut-être être étendus à des personnes plus fragiles, ou peut-être que votre myocardite myocardite vous rend plus fragile? Pour l'instant, on dirait que non. Néanmoins, il faut qu'on soit vigilant. Les données évoluent jour après jour. Encore une fois, on avait dit au début, c'est peut-être qu'un syndrome grippal. Et là, on est dans le confinement total. Donc, prudence. Considérez-vous à risque. Ça vous permettra à la fois, vous, de faire attention pour vous, mais aussi pour les autres. Parce que même si le virus, pour vous, imaginons que vous l'attrapiez et que vous allez bien, bah, le tout, c'est de ne pas le refiler aux autres, que les autres tombent malades, puisqu'on veut éviter la surcharge des hôpitaux. L'enjeu est là. Et les mesures prises hier n'auront d'effet que dans 10 ou 15 jours. Il faut s'attendre à ce que nous ayons malheureusement de plus en plus de cas, de plus en plus de morts, mais il faut maintenir nos efforts. C'est à ce seul coup qu'on pourra avoir des résultats.
Ouais, le bilan qui continue d'ailleurs d'augmenter ce soir, hein, c'est presque 700 cas en réanimation ce soir, 27 décès supplémentaires en 24 heures, ça fait 175 décès en tout en France de ce virus. Ça, vous dites, ça va continuer d'augmenter. Combien de temps il faut pour ralentir cette courbe si ces mesures fonctionnent, docteur ?
Alors, tout dépend des mesures prises et si elles sont appliquées, si on respecte les règles. Parce qu'on pourra toujours prendre toutes les mesures de la Terre. Si les gens continuent à sortir alors qu'ils n'ont pas besoin, on va continuer de transmettre le virus. On estime pour l'instant qu'il faut 10 à 15 jours avant d'avoir un réel effet sur la courbe de nombre de cas et du nombre de morts. À l'heure actuelle, on a dit quasiment 700 personnes sont en réanimation sur les 7700 cas. Ça fait quand même quasiment 10% des malades. Initialement, on avait parlé de 5%. Donc finalement, on a peut-être un peu plus de cas graves et une mortalité qui est un peu plus supérieure chez les moins de 65 ans. Elle est de 7%, raison pour laquelle il faut patienter, il faut être endurant, on sait que c'est pénible, mais nous aurons les résultats d'ici 10 à 15 jours si nous respectons les consignes.
Voilà, je remercie Ossine qui nous a appelé. Merci Ossine pour votre question et je salue à présent Jacqueline. Bonsoir Jacqueline.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez d'une région qui est particulièrement touchée, l'Alsace.
Oui, tout à fait, le Haut-Rhin en particulier.
Quelle est votre question ?
Alors voilà, le président Macron a pris la décision du confinement, mesure que j'approuve. Il préconise d'assurer le respect de cette consigne en ayant recours aux policiers. Or, on parle dans les médias de carence en matériel médical de protection. Le corps médical, tout métier confondu, en est affecté. Qu'en sera-t-il alors des policiers pour les protéger? Seront-ils dotés de masques systématiquement en intervention lorsqu'il y a déjà une grande pénurie? Lorsqu'il s'agit de s'adresser à un ou deux individus pour contrôler, on peut garder les distances. Et cela peut très bien se passer. Mais lorsqu'il s'agit de groupes d'individus en bas d'immeubles, de quartiers sensibles, où règne déjà une hostilité latente et sans stigmatiser quiconque, les consignes seront plus difficiles à appliquer. Pour les policiers, il y aura une proximité inévitable.
Jacqueline, vous soulevez une vraie question. Merci beaucoup. Et c'est Alain Acco, le chef du service police-justice, qui vous répond ce soir.
Ah oui, alors il y a plusieurs discours. Il y a les syndicats de police qui dénoncent le manque de matériel à leurs yeux. Et puis comme Jacqueline est de Colmar, eh bien moi j'ai appelé à Colmar, j'ai appelé la commissaire de Colmar pour savoir comment ça s'était passé aujourd'hui. Et elle assure que toutes ces patrouilles, tous ces policiers étaient équipés d'un masque et d'un gel cet après-midi. Ils n'ont pas forcément à s'en servir puisque la distance de sécurité réglementaire c'est 1m50. S'ils doivent se saisir d'un objet, eh bien ils prennent des gants et s'ils doivent s'approcher et interpeller quelqu'un, ils mettent le masque et tous les fonctionnaires qui étaient sur le terrain aujourd'hui avaient ce masque à disposition, mais pas systématiquement porté sur eux, évidemment. Et puis, il faut savoir qu'à Colmar, par exemple, cet après-midi, il y avait 18 patrouilles de police au lieu de 2 ou 3 habituellement. C'est tout le commissariat et la police municipale qui ont effectué des contrôles systématiques dans des endroits stratégiques. Plus d'un millier de véhicules ont été contrôlés aujourd'hui pour vérifier que les conducteurs et éventuellement leurs passagers avec leur attestation, eh bien, la plupart, la quasi-totalité des personnes contrôlées avaient leur attestation justifiant leur sortie de leur domicile. Bon, c'est vrai, vous l'avez dit, nous sommes en Alsace. L'Alsace est plus disciplinée peut-être que d'autres quartiers ou d'autres régions françaises. Et en plus, l'Alsace est sévèrement touchée par l'épidémie.
Maggie est avec nous au 3921 également. Bonsoir Maggie.
Oui, bonsoir.
Allez-y. Alors, pour votre question.
Oui, alors moi je voudrais savoir, sur l'attestation de déplacement dérogatoire, on dit qu'on peut avoir un déplacement, lié à l'activité physique individuelle des personnes. Or, la raison qui me fait vous appeler, c'est que ma fille et mon gendre sont en télétravail. Ils ont 3 filles âgées de 13 ans, 9 ans et 5 ans. Je voudrais savoir si on a le droit de les sortir, une par une, avec un adulte, ou les 3 ensemble. Parce que j'arrive pas depuis ce matin, je ne sais pas.
Alors c'est une très bonne question Maggie, en gros est-ce qu'on a le droit de faire une petite promenade en famille si de toute façon on vit ensemble, Alain Acco? Alain Aco va vous répondre. On a perdu Alain Co, je
crois. Non, pardon, je m'étais éloigné parce que j'avais un message, pardonnez-moi, soyons très clairs.
Est-ce qu'on est-ce qu'on a le droit de sortir, oui, ensemble avec ses enfants, en fait. On sera à plusieurs, mais en même temps, c'est notre foyer.
Ouais, mais c'est pas ce qui est préconisé. Je parle aussi sous le contrôle de Jimmy Mohamed. L'idée, c'est de, si vous avez une course à faire, vous la faites seul. S'il s'agit de faire respirer l'air un petit peu à vos enfants devant la maison, vous le faites brièvement en prenant soin de toute façon de ne pas croiser d'autres enfants. La tentation est trop forte, ou très forte en tout cas pour des enfants, de rejoindre leur copains quand ils les ont dans la rue. Juste une expérience dont on parlera bientôt sur Europe 1, peut-être dès demain matin, dans le 10e arrondissement de Paris, dans un immeuble, il y a un tout petit jardin, et bien les habitants ont créé un doodle pour se répartir l'accès au jardin par famille avec enfants, pour pas que les enfants des uns croisent les enfants des autres dans le même jardin, mais que tous, à tour de rôle, à des horaires répartis, puissent un peu profiter du beau temps et du jardin.
Et voilà pour cette réponse. Effectivement, il faut essayer de rester sage et de pas sortir, en tout cas avec tous les enfants en même temps, même si c'est pas forcément facile. Merci Maggie pour votre question. On avait énormément de questions. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont appelés ce soir. On pourra pas toutes les prendre, mais on va faire ça tous les soirs de 19h30 à 20h. Les spécialistes de la rédaction d'Europe 1 seront là pour répondre à toutes vos préoccupations très concrètes sur le terrain, et on va apprendre aussi en avançant avec vous. Merci à Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, au docteur Jimmy Mohamed, que vous retrouvez évidemment tout au long de la journée désormais sur Europe 1, et surtout à 15h dans l'émission Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez. Et merci à Alain Aco, chef du service police-justice d'Europe 1. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous allez retrouver Émilie Mazoyer dans un instant pour la musique, juste après le journal de 20h. Je remercie encore tous les moyens techniques d'Europe 1 d'avoir permis et de permettre ces émissions à distance. On est tous à distance et on réussit à vous informer chaque soir et chaque matin. Vous retrouvez évidemment Mathieu Béliard demain à 6h. Belle soirée, à demain.
C'était Sébastien Krebs sur Europe 1. Bonne soirée.